La coca turque.
On fera les boissons étrangères.
Alors.
Pareil, c'est zéro.
Est-ce qu'on a le droit. Certains demandent est-ce qu'on a le droit de frapper ce chien. Je pense que la question est erronée. Moi, je fais sans bruit.
Est-ce qu'on est à l'obligation ou est-ce qu'on a les sourds?
Voilà, je pense que la question c'est est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Ou un peu différemment, est-ce que c'est recommandé ou à l'inverse, la Torah nous conseille de ne pas le faire, déconseiller. Mais moutard, c'est pas le mot. Moutard, c'est quelqu'un qui veut manger, il veut boire du coca, il demande est-ce qu'il a le droit de le faire. Donc, il a quelque chose qui l'intéresse, il va savoir s'il peut le faire. Celui qui demande est-ce que j'ai le droit de frapper mon fils, c'est-à-dire je veux frapper mon fils. J'ai un intérêt personnel de le faire, comme boire du coca ou comme étudier une soga, aller à un cours. Mais l'action, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors, celui qui peut être comme ça, c'est Assour. C'est pas seulement c'est Assour, c'est qu'il a un problème, il doit se soigner. Ne pas se demander est-ce qu'on a le droit de frapper son fils. C'est évident, non? Ce qu'il faut savoir, c'est ce que la Torah veut qu'on frappe son fils. Et dans ce cas-là, on va se faire violence parfois, ou parfois on va faire d'après sa nature, on va le frapper. Comment ? Ah, pour frapper son fils, il faut se faire violence souvent. Non ?
Ça peut être inverse, se faire violence, on n'est pas le frappant.
Alors, ça dépend des natures. Alors, on peut dire, en blaguant, que celui qui doit se faire violence pour frapper, il doit frapper. Celui qui doit se faire violence pour se retenir, il n'a pas le droit de frapper. C'est vrai aussi, on verra. Mais en tout cas, le sujet, ce n'est pas est-ce qu'on a le droit de frapper, c'est est-ce qu'il faut frapper. Alors, on va commencer par un pasouk dans Michelet. Dans Perek Yud Gimel, à la fin du Perek. Pasouk Kav Dalet. Avant dernier pasouk. Chosser Shifto, celui qui retient son bâton, il déteste son fils. Ve'ohavo, et celui qui l'aime, Shoharo Moussa, Shiharo Moussa, il lui fait du Moussa. Donc Chosser Shifto, celui qui déteste son fils, il retient son bâton, Soné Beno, il déteste son fils. Ça c'est. Alors Chosser Shifto, Soné Beno, celui qui retient son bâton. Chevet, c'est un bâton. Ça, une petite remarque. Comment on dit une tribu en hébreu? Chevet. Comment on dit une tribu en hébreu? Un autre mot. Dans la Torah, Maté Réhouven, Maté Shimon. C'est quoi Maté Réhouven? Non, Maté, c'est Maté Réhouven et Maté Shimon. C'est tribu. Comment on dit bâton en hébreu? Maté Aaron. Et là, Roser Shifto, ça veut dire Chevet. Donc le mot Chevet, qui veut dire tribu, veut dire bâton. Le mot Maté, qui veut dire tribu, veut dire bâton. Tu veux comprendre le rapport? On a entre une tribu et un bâton. Mais il n'y a pas d'hasard dans la Shana Kodesh. Et ça, c'est une des preuves qu'il n'y a pas d'hasard, puisque les synonymes ont aussi des homonymes. Dans les deux cas, vous comprenez? Dans Chevet et dans Maté. Bon, en tout cas, dit Rashi, pourquoi Choser Shifto Sonet Beno, Sofo chez Sonet Beno? À la fin, il va détester son fils. Shoreu be Sofo Yetela Tarboudra. À la fin, il voit, hein, quand son fils il sort les Tarboudra, ça sort un délinquant, et donc il déteste son fils. C'est-à-dire qu'au début, donc d'après Rashi, c'est à la fin il déteste son fils. Pour l'instant, il l'aime bien. Au contraire, il l'aime tellement qu'il ne frappe pas. Il ne réprimande pas. Et à la fin, le fils, à cause de ça, ça devient un délinquant. Comme ça, la Torah le présente les choses. Et le père, il va venir à détester son fils. Ça, c'est le pshat de Rashi. Mais Oavo, celui qu'il aime, Shicharo Moussar, il lui fait du Moussar. Il dit Rashi, Tamid, Lavkarim et Aserou, tout le temps, enfin de façon régulière plutôt, il lui fait du Moussar. Alors c'est intéressant parce que le Chawa c'est pas vraiment les psukim dans Michelet, ils font l'opposition. Par exemple, pasuk d'après Tzadik, Ochel Sovanafcho, le Tzadik qui mange pour se rassasier, ou Beten Reshaim Tersa, et le Racha il a toujours faim. C'est-à-dire que celui qui fait, il mange pour être en bonne santé, ça lui suffit. Comme Rav Shteyman par exemple, c'est les Shloshim là maintenant ce soir à Pavé, enfin je sais pas si c'est Mach les Shloshim, c'est dans le jour, mais à Pavé ils font les Shloshim. Ce soir, lui c'est connu qu'il mangeait tzadik ochel et sovan afcho, il mangeait pour se rassasier, donc il faisait une petite quantité. Et celui qui est beten rechaim, toujours il a faim. Donc ça on comprend l'opposition entre les deux. Alors que choser shifto son ebeno, j'aurais dit veo avo makeu beshevet. Celui qui l'aime, il le frappe. Parce qu'il ne dit pas ça. Celui qui l'aime, il lui fait du moussard régulièrement. Le moussard, ça veut dire éprouver son fils. Ça veut dire être meyasser et beno, yasser bincha. Et avec fait du moussard à ton fils, il va t'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre entre des barrières en fait. Ça, je veux pas dire tout ça, mais faire du moussard. Ça veut dire le guider. C'est ça, le cadrer.
L'encadrer,
ça c'est moussard dans la Torah. Mais en tout cas, l'opposition de Choser Shifto Soné Beno, c'est pas Oavo Noten Lo Makot, et là Oavo il lui fait du moussard. C'est-à-dire que normalement, l'idéal, c'est lui parler de moussard. Pas le laisser grandir de façon pérée, de façon. Sauvage, libre dans le sens de libertinage, mais il faut le former. Ça, c'est Oavo Shicharo Moussar. Celui qui aime son fils, de façon régulière, il dira Shicharo Moussar. C'est-à-dire qu'il a des conversations avec lui régulières, où il parle de la vie, où il réfléchit avec lui, où il le reprend, etc. S'il fait des erreurs. Une parenthèse. Les Maasé, aujourd'hui, souvent, beaucoup de ce qu'on va voir, ça va être un peu différent aujourd'hui. On va plus mettre le point sur le positif, etc. Dans la Torah, on met souvent le point sur le cadré. Donc pour l'instant, je présente comme autant de Michelet, où Michelet a été donné, etc., et autant des Gmarot, comment c'était présenté. Après, on va voir que même, puisque l'idée de base, ce qu'on va voir, c'est l'idée de base, c'est l'amener vers le bien, hein, on va voir qu'aujourd'hui, parfois, ça va être fait différemment. Mais d'abord, on voit d'après dans la Torah, on voit les sources dans la Torah, après, on verra que ça va changer. En tout cas, ça, c'est le pshat de Rashi. Donc, Soné Beno, à la fin, il va détester son fils. Mais c'est pas le pshat. Parce que Soné Beno, Choser Shifto, celui qui retient son bâton, Soné Beno, il déteste son fils. Maintenant, il déteste son fils. Rashi dit, demain, il détestera. Dans 5 ans, il détestera. Par exemple, Ishmael, de Rashi, c'est ça. Le Midrash, il dit, premier Midrash sur Shemot. Shemot Rabba, Perek Aleph. Moi, je suis au tout début. Il dit, il est les Shemot Ben Israël. Comment ça fait que les Ben Israël, ils sont tous sortis bien, tous les enfants de Yaakov. Et là-bas, le passage qui dit que. Le Midrash il dit que sur qui s'est écrit Choser Shifto Soné Beno Voao Shicharo Moussa? Sur Avraham avec Yitzhak et Ishmael. Et sur Yitzhak avec Yaakov et Esav. Que Avraham il a eu pitié de Ishmael. Et donc il n'a pas été meyasser. Bonsoir, il n'a pas été meyasser et Ishmael. Comme il n'a pas été meyasser auto, il n'a pas donné, il a été Choser Shifto. À la fin, Ishmael il est sorti, il était au bout de Raham. Et Ishmael, il venait avec une statue, il embrassait la statue, et il jouait avec, etc. Et Sarah, elle a dit, Abraham, comment tu peux le laisser comme ça? C'est-à-dire qu'Abraham, avec nous, il ne s'est pas trop mêlé de la vie de Ishmael. Il a vu qu'Ishmael était un peu sauvage, peut-être, père et Adam. Et il a dit, bon, je le laisse comme ça. Et comme il a laissé comme ça, Ishmael, il est mal sorti, il a mal tourné, jusqu'à ce qu'à la fin, il l'a détesté. C'est écrit qu'Abraham, il avait très mal au cœur quand il a renvoyé Ishmael. Là-bas, dans Rashi, il y a deux malachim, un peu contradictoires, mais ce n'est pas contradictoire. Est-ce qu'il a mal au cœur de devoir envoyer son fils ou mais il a mal au cœur parce qu'il déteste son fils, il est en colère contre lui. Il y a deux explications. C'est deux facettes. C'est-à-dire que d'un côté, il a mal au cœur que son fils il a mal tourné, mais d'un autre côté, il est en colère contre lui maintenant. Parce que son fils, il pensait que son fils allait comprendre de lui-même, donc il n'a pas voulu trop l'éduquer, et il est mal sorti. Donc il y a eu l'expérience apparemment avec Ishmael. Donc avec Yitzhak, il a changé de comportement, il a été plus dur avec Yitzhak. Comme ça, le Midrash dit. Comme il était plus dur avec lui, donc Yitzhak, il est bien sorti. Pareil, Yaakov et Esav. Yitzhak, il a été indulgent envers Esav. Kitzaïd Befiv, il a été indulgent avec lui. Donc Esav, il est mal sorti. Comme ça, le Midrash dit. Donc le Midrash dit, Choser Shifto Soné Beno, si on veut que son fils y sorte bien, il faut le frapper. Ça, c'est les mots du Midrash, longuement. Mais en réalité... C'est pas... Donc là, un peu ce Midrash présente des choses comme ça. Quand tu veux voir à la fin comment il sort le fils, voici. Mais le Malbim ici, il explique un autre pshat. Le pshat Pashou dans le Pasouk, Soné Beno, c'est pas qu'à la fin il va être son fils. Je vous lis le Malbim pour comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que la Torah vient dire ici comme chidouche? Celui qui aime frapper, il n'a pas besoin de Michelet pour frapper. De toute façon, il va frapper son fils. On parle de quelqu'un qui a des bonnes midot et que naturellement il ne veut pas frapper son fils. Et la Torah lui dit non, il faut que tu le frappes. Pourquoi? Alors, Mishu Choser Shifto, mi gargeu al beno, parce qu'il a des gagouim, il a une faiblesse pour son fils. Comme parfois, hein, quelqu'un qui n'a pas d'enfant pendant 20 ans, après il a un enfant. Alors, il a une faiblesse spéciale pour cet enfant-là, il est incapable de le réprimander. Et le fils, ça devient un enfant pour y gâter. Ça, c'est ce que la Torah veut présenter ici. Normalement, un père, il aime tellement son fils qu'il a des gagouim pour lui. Et parfois, il n'est pas capable de le réprimander, de le frapper. Et dans ce cas-là, le fils, il va mal sortir, parce qu'il va être pourri gâté. Donc il dit, en réalité, ce père-là, il sait qu'il doit frapper son fils, qu'il doit le reprendre, mais tellement il s'aime lui-même, qu'il n'est pas capable de se dépasser, de dépasser son égoïsme pour le bien de son fils. C'est ça, Choser Shifto Soné Beno. Celui qui déteste son fils, non, celui qui retient son bâton, c'est qu'il déteste son fils. C'est pourquoi il déteste son fils, c'est-à-dire qu'il s'aime plus que ce qu'il aime son fils. Comme quelqu'un, son fils, il doit passer une opération. Une fois, ma fille, elle devait passer comme une petite 4 dames. Et j'ai dit à ma femme, je vais essayer d'avoir courage. Moi, je suis très peuré avec le sang et tout, je suis ultra sensible. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer. Et l'infirmière, pendant 5 minutes pour qu'elle trouve la veine, et moi, je me retiens, j'arrive pas avec. À la fin, j'ai craqué. Le médecin, il est arrivé, j'ai dit, pour la prendre, en une seconde, lui a fait. J'ai dit à ma femme, prends la petite, tu es incapable. Moi, je suis très sensible par rapport au sang. Et un rave, il m'a raconté une fois, lui, il est ultra sensible, il nous a raconté. Mais quand un de ses enfants, il avait un cas de, je sais pas, un danger ou je sais pas quoi, il a tenu l'enfant pendant longtemps. Il a vu comment on l'entaillait ou je sais pas ce qu'on faisait là, les nous pour le guérir. Et il a su se dépasser pour son fils. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça l'image ici. Quand quelqu'un il donne un coup à son fils, ça lui fait mal. Mais comme il aime son fils plus que ce qu'il s'aime lui-même, donc il est prêt à souffrir en quelque sorte pour que son fils il reçoive le coup. Et donc il dit si on le réprimande pas, il va pas apprendre chokhma. Ki ben chacham, moussar av, un ben chacham, c'est grâce au moussar du av. Veze siman, le fait qu'il se retient de le frapper, chez hemiato albeno, l'émotion, le cœur qu'il a pour son fils, chez noé acholirot betsaro, il peut pas voir la souffrance de son fils, ou et slo yotem ito ledeno, c'est plus grand à ses yeux, c'est plus cher à ses yeux que l'intérêt de son fils. Et donc il reprend pas son fils. Et c'est ça le problème. Alors que celui qui aime son fils, alors il est prêt à en quelque sorte souffrir lui pour que son fils y trouve l'équilibre. Maintenant, ça c'est déjà le pasouk ici. Donc on a compris, le pasouk qui ne parle pas de quelqu'un qui est brutal, qui veut verser sa colère contre son fils, ça c'est interdit, on va voir. On parle de quelqu'un qui naturellement, il a des gagouim pour son fils, un amour pour son fils qui l'empêche de le reprendre à l'ordre. C'est pour ça que la Torah dit l'inverse. C'est pas ve'oavo noten lo makot, chas v'shalom. Ve'oavo shicharo musar. L'inverse, c'est celui qui éduque son fils. Mais là, on parle éduquer dans le sens cadré, pas dans le sens éduquer vraiment, que ça veut dire le faire aimer la Torah et mitzvot. La deuxième partie de l'éducation, qui est moins importante, qui est de le recadrer, etc. C'est aussi important.
On peut comprendre ce que
tu veux
dire. On peut dire aussi parce que c'est un passage obligé. Donc si tu le fais pas, tu le haïs. Maintenant, c'est son mérite à cette œuvre.
Très bien. C'est aussi vrai. C'est-à-dire que l'extrême.
C'est pas parce que tu vas le frapper que ça suffit.
Voilà,
ça, c'est pour juste rétablir l'équilibre. Après, maintenant, il faut faire
un peu en plus. Je veux dire un peu différent, mais ça revient même. Toi, tu dis comme ça. Tu dis, il faut passer par l'étape de frapper, mais après, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut, une fois qu'on a recadré, il faut parler avec lui, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est un peu différent. Je veux dire que l'idéal, c'est Shicharo Moussa. Mais celui qui se retient totalement de frapper son fils, il est sonné aussi. C'est-à-dire, badaï que l'exemple normal que la Torah elle préconise à l'homme, c'est pas frapper son fils, c'est de l'éduquer, de le former. Il a même le recadrer avec la parole, avec parfois des petites punitions. Et s'il faut, même le frapper. Mais celui qui se retient totalement de frapper, il est incapable de frapper. C'est une faiblesse.
Quand la Torah dit frapper, c'est une mâche des coups, ça peut être frapper.
On va voir.
Dis-moi un bâton.
Non, on va voir après.
Non, mais ça peut être un bâton intellectuel.
C'est un bâton métaphorique.
Voilà. Non, on va voir.
Alors, je te tape.
Non, on va voir. Tu as raison.
Je te punis.
Tu as raison. On va voir. On va voir Bedrat Hashem ce Inyana. Il y a un Zohar à Kadosh. Le Zohar à Kadosh, il dit qu'il y a deux rabbanim, Rabbi Yossi et Rabbi Yaha, ils marchaient en route. Et Rabbi aussi, il a été méharé au milieu des Alma. Moi, je n'ai pas le langage. Il a pensé à des choses futiles, à des choses de la vie. Et Rabbi Acha, il a pensé à des paroles de Torah. Mais c'est le premier, il n'avait pas besoin de penser à. C'est pas qu'il avait besoin de savoir à quelle heure il prend son train et regarder à quelle heure. Sinon, la suite, elle ne marche pas. Quand il reste un, il est évacé. Et l'autre Rav, il pensait à des paroles de Torah. Et Rabbi aussi, qui rêvassait, il a vu un serpent qui lui courait après. Alors il a dit à Rabbi. Rabbi Acha, dis-moi, est-ce que tu vois le serpent? Il dit non, je le vois pas. Il a dit, ah, c'est-à-dire qu'il me court après. C'est-à-dire que moi j'ai fait une faute et lui il a rien fait de mal. Donc il a commencé à courir et le serpent il lui court après. Et il a trébuché sur une pierre ou je sais pas, il est tombé, il a saigné du nez. Comme ça, c'est les mots du Zohar, hein. Traduit de l'araméen zoharique. Il a trébuché, il a saigné du nez. Alors il a dit, il a entendu qu'on disait qu'il y avait une batte colle ou les malachim ou je sais pas quoi. Raketrem avti mikola amim, un truc genre, c'est un pasouk dans Amos. Seulement vous, les juifs, je vous aime de parmi les peuples. Et c'est pour ça, efkod alechem et kol avonotechem. C'est pour ça que je vous donne la punition sur vos actes. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Et là, il a dit, Rabbi aussi, regardez comment Hachem, il aime le peuple juif. Et donc, il reprend à l'ordre le peuple juif et il ne laisse pas s'écarter de la Torah. Et surtout, il dit les talmidei chachamim. C'est pour ça qu'il rajoute là-bas le Zohar. Parce que comme il les aime particulièrement, qui aime bien, châtie bien. Sauf que le Zohar ici il ramène un passage qui est proche de Roser Shifto, même plus que ça, qui est Efkod Alechem et Kol Avonotechem. Chawa, c'est un passage dur, de punition. Et il a vu ça comme un message d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un serpent qui lui court après. Ce serpent, il a été vu par Rabbi aussi. Sauf que le but, c'était pas que Khadisham le serpent le tue. C'était, et Rabbi Acha, il a pas vu le serpent.
C'est-à-dire que c'était un messager d'Akadosh Baruch Hu, un ové d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit sache, il faut que tu le reprennes. Et il a compris le message d'Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'Hachem lui dit je t'aime. Et comme tu es cher à mes yeux, Rabbi Acha, il a rien fauté, au contraire, il est en train d'étudier. Mais toi qui fautes, un petit écart de ta part, et tu comprends le message, je te reprends. Et Chazal dit que les Oumot, Hachem il les laisse. Pourquoi c'est que les Oumot ils fleurissent comme ça? Parce que Hachem il les laisse profiter jusqu'à ce que Nitmala Seatam leur paquet il est plein, et après il les efface. Donc les Romains, ils avaient la période de gloire des Romains, après ils ont été effacés. Pareil les Grecs, pareil les Égyptiens, etc. Tous ces empires-là. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut pas, comme il les aime pas, comme. Et Esav Saneti, il dit là-bas le Zohar, je crois. C'est une Aftara, on dit, et Yaakov Avti, et Esav Saneti. C'est-à-dire que Yaakov, Hachem, il le reprend parce qu'il aime. Et si tu sais que tu. Par exemple, parfois, les Abdil, quand on a un élève, et on perd un peu d'espoir avec cet élève, on le reprend plus. On sait que ça sert à rien. Ou les Abdil, allez-nous, c'est quelqu'un, il est malade. Quand quelqu'un, il est malade, une maladie grave, si on sait qu'on peut le soigner, alors on lui donne un régime très difficile, etc., pour le sauver. Mais ma femme, je crois, elle m'a dit que sa grand-mère, quand elle était très malade de la maladie, à un moment, les médecins, ils ont dit à ma belle-mère et à ses sœurs, gâtez-la, c'est plus la peine. De toute façon, il n'y a plus nafkamina. C'est un non-retour. Donc au moins qu'elle profite. Ce qui, bon, c'est peut-être une chita un peu... Mais en tout cas, c'est-à-dire que parfois, on se dit, il n'y a plus d'espoir, donc on laisse les choses se faire. Donc c'est ça que Chazal dit. Ce que la Kadosh Baruch Hu avec les nations, il faut comprendre pourquoi, mais il n'est pas vraiment intéressé de les récupérer. Et donc, il les laisse se perdre. Donc ils n'ont pas de punition, et un jour, ils se prennent tout. Alors que le Yaakov a Avti, donc je le reprends. Donc c'est ça l'idée. Et nous, on doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu. On doit être à l'image d'Hachem. Comme Hachem, c'est un père pour nous, nous, on doit être comme Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi le kesher principal d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, avec ses fils? De coup ou d'amour? Le kesher principal d'Akadosh Baruch Hu, c'est un kesher d'amour. Donc c'est pas chouette que tous ces psukim-là, ils veulent pas enlever le kesher d'amour avec. Si Hachem, on se le représente comme quelqu'un qui a un bâton, comme un être qui a un bâton et qui nous frappe, on a rien compris. C'est pas du tout ça le kesher avec Hachem. Le kesher entre un père et son fils, ça va être un kesher d'amour comme. Et d'ailleurs, celui qui a pas un bon kesher avec son fils, le fils qui n'a pas un bon kesher avec son père, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Alors ce fils-là, il pourra pas bien être revêt d'Hachem. Naturellement, il peut se travailler après, mais naturellement, il pourra pas être revêt d'Hachem. Parce que avoir un kesher avec Hachem, c'est d'abord un kesher d'amour. Donc si le père, il est dur avec son fils d'une façon qui casse le kesher avec son fils, le fils, il sera bloqué par revêt d'Hachem. Donc le vadaï, le kesher de base, c'est un kesher d'amour. Seulement, de même que Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il se fait violence, qui vient chol, pour le Ham Israël, pour les goyim, il laisse. Mais pour les juifs, il est dur pour pouvoir les récupérer. Et plus la personne elle est raffinée, plus il peut se permettre de travailler. D'ailleurs, plus il est intelligent, on verra après Rabbeinu Mechaï. D'ailleurs, il y a une Gemara qui dit, maintenant quand j'ai ramené ce Zohar, je vois une Gemara qui ressemble beaucoup à ça. Une Gemara qui dit que Rabbi Yochanan et Ilfa, vous connaissez cette Gemara, une Gemara connue dans Masechet Ha'anit. Ils étudiaient, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors ils sont partis travailler. Et quand ils étaient en route pour aller faire du commerce, ils sont passés sous un mur branlant, à côté d'un mur branlant. Alors Rabbi Yochanan, il a entendu deux malachim. Merci beaucoup. Rabbi Yochanan, il a entendu deux malachim qui parlaient l'un à l'autre. Et l'un des deux, il a dit à l'autre, viens, on fait écrouler ce mur sur ces gens-là. Parce qu'ils quittent Chaye Olam pour aller à Chayesha. Canérique, ils auraient pu se débrouiller. Bon, on va voir pourquoi en fait ils sont venus. C'est pas bon. Rabbi Yochanan, il a entendu ça. Il a dit à Ilfa, dis-moi, tu entends quelque chose? Il a dit, non, j'entends rien. Il dit, ah, t'entends rien, Canérique, c'est Miacharin, c'était pour moi cette batte-colle. La même histoire qu'avec les serpents. Hadak, merci beaucoup. Hadak. Merci. Donc il a dit qu'Anéré c'est pour moi. Alors il a dit à Ilfa, tu sais quoi, tu peux continuer ta route, moi je reviens au Beit HaMidrash. J'ai reparti au Beit HaMidrash. Et c'est devenu, quand le Rav il est Niftar, ou je sais pas, il s'est devenu Rosh Yeshiva Rabbi Yochanan. Donc il avait une bonne paye et tout. Quand Ilfa il est revenu, non, parce que pour comprendre l'histoire, il sait comment ça marche. Quand Ilfa il est revenu du commerce, et il a vu que Rabbi Yochanan il est devenu roi, comme ça la Gemara l'appelle. Malach Rabbi Yochanan, tu sais quoi. C'est dans le côté Rouhani, c'est-à-dire que même c'était le chef de la communauté, c'était quand. Donc c'est ça que je veux dire. Donc il a dit, pourquoi vous avez choisi Rabbi Yochanan? Moi je peux. Donnez-moi n'importe quelle question, je peux vous répondre. Il était très mal, Ilfa. Mais qu'est-ce que la Gemara veut dire par là? La Gemara veut dire que Rabbi Yochanan il avait un tellement grand potentiel. Pourtant Ilfa était peut-être plus racham que lui, si on voyait bien la Gemara. Comme ça là-bas, Ilfa il a dit, moi j'aurais pu être beaucoup meilleur que lui. Mais c'est-à-dire qu'il était peut-être plus intelligent. Mais Rabbi Yochanan était plus investi. Et donc Hachem lui a envoyé un peu un moussard comme ça. Il lui a fait une menace. Malachim, ils sont venus, c'était les envoyés d'Hachem. C'est quoi un malach? Malach, ça veut dire chaliar. Ishlach Yaakov Malachim. Après certains dans Chazal, c'est des hommes. Pourquoi on les appelle des Malachim? Malach, c'est renvoyé. Un Malach, c'est juste un envoyé d'Hachem. Donc il y avait des envoyés d'Hachem qui sont venus pour faire un remez à Rabuchan. Reprends-toi. Tu es plus que ça. Ilfa, d'accord, il n'a pas cette situation financière, il va travailler, c'est normal. C'est la nature des choses. Mais toi, tu peux te dépasser, dépasse-toi. Il y a un autre midrash d'ailleurs qui dit que Rabbi Hanan, quand il passait avec son élève Rabbi Yachaba Yaakov, on l'a vu, je crois, il lui a dit, tu vois ça? Ce champ-là, il m'appartenait, je l'ai vendu pour étudier la Torah. Ce verger, il m'appartenait, je l'ai vendu pour... Comme ça... Vous connaissez ce midrash? En tout cas, sur que Rabbi Hanan, il s'est surpassé parce qu'il avait... Hachem, il savait que Rabbi Hanan avait un potentiel plus élevé qu'un autre, donc il a envoyé du moussa. Ça fait mal. Un malard qui veut le tuer parce qu'il va travailler. Quel est le mal? C'est illogique. Pour Ilfa, il n'y a pas de raison de se prendre des coups. Pour un niveau normal, dans le normal, il n'a pas de quoi manger, il va travailler. Mais Rabbi Hanan, que Hachem, il savait qu'il a un potentiel plus grand, qu'il pouvait se dépasser, il a envoyé une tochacha. Donc cette tochacha-là, donc parfois, Shevet, c'est le coup, c'est pas forcément le coup de bâton, ça peut être une parole dure qui va reprendre en main la personne. Mais le pshat pashut, c'est les coups. On verra après, les artichem dans la Gemara, que c'est qui pshuto.
De la même manière, ouais, qu'on ne sait pas quand Hachem nous punit pour quelle raison, de la même manière, un père, dans quel cas il a frappé son fils avec... Hachem, des fois, il laisse là, il aura de se faire conquérir, ça ne se passe rien. Même chez... Et des fois, il est très macpille, il est sur ça, il veut savoir, etc. Et de la même manière, un père, des fois, son fils a fait une bêtise, ah là, il ne fallait pas le frapper, ou un petit truc, là, il fallait vraiment être
macpille. Il faut savoir une chose. Dans tout ce... Après, on va voir plus en détail, mais jamais dans ce genre de truc.
Il y a des clalim.
Celui qui cherche les clalim peut aller ailleurs. Pareil, donc, est-ce qu'il faut. Quelqu'un qui n'a pas de parnassage, est-ce qu'il doit se rajouter un travail?
Non, mais le derrière, pas son éclalim.
Alors, on va voir. Ça n'a pas de sens. Celui qui demande est-ce que je dois aller travailler un peu plus ou je fais un peu plus mitrailler bitachon, ça n'a pas de sens. C'est pas ça l'idée. C'est, il faut comprendre quelle est l'idée. C'est quoi l'idée de frapper, c'est quoi l'idée de ne pas frapper. Alors maintenant, déjà on a vu. Là on va passer à une Gemara. On va voir que Massé c'est vraiment des coups physiques. On va voir que c'est Mamash qui est plutôt. On ne va pas rester pas clair. Après, une Gemara qui est parfois c'est l'inverse. Mais une Gemara Makod Afret. La Gemara parle par rapport à Ohiou Galout. Si quelqu'un il a tué le Alenu, il est Chayav Galout, s'il a tué Beshogeg. Pourtant c'est écrit Abba Shaul Omer, Ma Chatavat Etzim Reshut. De même que quand on coupe du bois, c'est facultatif, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Av Kol Reshut. Pareil, chaque chose qu'on a fait un acte facultatif, il peut y avoir un Ohiou Galout. Par contre, Yatsa Av Amaked Beno, donc on exclut un père qui frappe son fils, Ve'ara Varode Talmido, ou un maître qui frappe son élève, ou Shliar Bedin pour les Chiyuv Makot quand il est Chayav Malkut. S'ils ont frappé le fils, l'élève, et il est mort, il n'est pas Chayav Malkut. Comment?
Non, c'est pas un fils.
Le pêcheur.
Trois cas.
Alors, ils ne sont pas Chayav. Galout. Demande à Gemara pourquoi. La Gemara dit, qui te dit que quand celui qui coupe le bois, il est en train de couper du bois de Réchou? Peut-être qu'il est en train de couper du bois pour faire une souka. Donc c'est une mitzvah. Peut-être qu'il est en train de couper du bois pour le Bet Amigdash, pour mettre sur le Mizbeach. Et malgré tout, la Torah dit qu'on est Chayav Galout. Donc qui te dit qu'on parle d'un tu dépose comme axiome que celui qui coupe du bois, on parle de Stam, il coupe du bois pour se chauffer la maison, c'est Réchout, et en même temps il tue, et donc la Torah parle seulement de Réchout. Et là tu exclus le cas de celui qui frappe son fils parce qu'il fait une mitzvah pour l'éduquer. Peut-être qu'on parle qu'il a coupé le bois pour le Hatzéa Maharacha, pour la Souka, et donc c'est une mitzvah. Et malgré tout, il répond la Gemara qui va dire Matzah Khatouv, la mitzvah, je t'en amène la mitzvah. Puisque s'il trouve du bois déjà coupé pour la souka, il n'a pas une mitzvah de couper le bois. Donc nous, ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a pas une mitzvah intrinsèque en soi de couper du bois. Tu demandes la Gemara, alors dans ce cas-là, comment ça fait que tu exclues le père qui frappe son fils? Le père qui frappe son fils aussi, c'est un hasard. Comme le fils, il a fait une erreur, alors il faut le frapper. Mais si le fils n'avait pas fait d'erreur, on n'aurait pas dû le frapper. Comme ça, la Gemara demande. Kevin Deilou Gamir Lav Mitzvah. S'il étudie bien, pas la peine de le frapper. Ashtan Ami Lav Mitzvah. Donc c'est pas considéré en soi comme une mitzvah. Répond la Gemara. Adar Amar Rava Lav Miltaï. Déhamré. C'est faux. Pourquoi?
Fils qui fait pas d'erreur, c'est de partout.
C'est forcément une erreur.
Pourquoi on parle d'étudier?
Non, j'ai mal lu la Gemara, désolé. Kevin Deilou Gamir Lav Mitzvah. Ashtan Ami Lav Mitzvah. Alors moi, la Gemara, mais il n'y a pas de mitzvah. Répond la Gemara. Hatam. Afalgav de Gamir, mitzvahi. Même s'il étudie bien, il se comporte bien, c'est une mitzvah de le frapper. Comme ça, il m'a dit. Dirtiv, yasser bincha v'yanichecha. V'iten ma'adanim l'enafshecha. C'est aussi un pasouk dans Michelet d'Afrique, dans Perek Kaftet. La Gemara elle est bizarre ici.
Il étudie.
T'étudies bien.
Là t'as déjà qu'il étudie bien.
Mais allez,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Yasser bincha éprouve. Comment? Yasser avec un dagesh bincha binicheka. Lis-le. Alors, et il va te laisser tranquille. Veiten ma'adanim l'enafshecha. Il va t'aimer. Donc, éduque ton fils. Là, Yasser, c'est le même mot qu'on avait vu avant Shicharo Moussa. Cadre-le, recadre-le, éprouve-le. Vinicheka, il va t'aider à menoucha. Et là, il va te donner du repos. Tu vas être tranquille. Veiten ma'adanim l'enafshecha. Il va t'aimer et tout. Il va te préparer des bonnes petites sauces comme ça, mijotées. Comme ça le pasouk qui dit. Et donc, puisque c'est une mitzvah en soi, là on parle pas qu'il a fait une avéra, le fils, tu veux être tranquille quand il grandit, le fils, tu veux être tranquille, tu veux être serein. Donne-lui des coups quand il est enfant. Yasser bincha, donne-lui des coups quand il est enfant, comme ça après t'es tranquille. Le reste de ta vie t'es tranquille. Je sais qu'il a bien poussé cet enfant-là. Comme ça le pasouk qui dit. Donc, comme ça la Gemara interprète le pasouk en tout cas. Donc la Gemara dit, même si le fils il fait pas d'averot, il y a une mitzvah de. Il fait pas de. Il étudie bien, il y a une mitzvah de le frapper. Et donc il faut rechercher ces moments-là. Donc en soi c'est une mitzvah. Vous avez compris, c'est pas notre sujet maintenant Galout, mais je vais vous montrer. La Gemara présente comme une mitzvah en soi. Et là la Gemara parle de coup. Parce qu'elle dit, on parle qu'un père il a frappé son fils. Maintenant, et là on parle de frapper un coup cruel. On parle que c'est Mila Shamaim, c'est tombé justement sur, je sais pas moi. C'était vraiment bizarre, mais.
Elle parle d'une mitzvah autant que Souka c'est une mitzvah.
C'est plus parce que Souka, la Gemara a dit couper le bois c'est un hasard.
Si elle non, tu couper... pas de couper pour Souka, mais autant que Souka c'est une mitzvah, frapper c'est une mitzvah. Parce qu'elle dit tout dans Souka.
C'est pas réchoute, c'est pas facultatif.
Non, dans Souka elle dit parce que couper c'est pas obligé, si tu trouves tu peux faire. Voilà. Mais elle considère que c'est mitzvah, mitzvah
non,
les deux quoi.
Les deux c'est un hercher mitzvah. Parce que couper du bois pour la Souka c'est pas une mitzvah en soi, c'est un hercher mitzvah, c'est un moyen.
Mais c'est,
pareil,
c'est
un moyen.
C'est
un moyen. Les deux c'est un moyen. Les deux c'est un moyen pour la mitzvah. Ça c'est obligé.
Ah, c'est un moyen obligé, là c'est un moyen
qu'il faut. Voilà, là c'est un moyen qu'il faut toujours rechercher.
C'est pas une mitzvah quoi.
Oui, la Gemara l'appelle mitzvah.
Au début, tu disais que si tu as vu ton fils, tu lui fais du moussard.
Ouais.
Là, tu lui dis c'est une mitzvah de frapper.
Voilà, non, j'avais fait exprès. Je sais que le mot yasser, des fois, il veut dire. Yasser, ça veut dire éprouver son fils, le cadrer. Mais shicharo moussard, je pense pas que là-bas, on veut dire des coups. Parce que dire les coups clairement, c'est pas les mots shicharo moussard. Donc ça a l'air. C'est pas c'est comme ça certaines versions, c'est pas mouchar. On peut dire que Shira Moussa sert par des coups, comme ici la Gemara a interprété le mot Yasser Bincha par des coups. Et par exemple, Shema Beni Moussa Ravicha Val Titoch Torat Emir Halaba le Gaon explique. Moussa ça peut pas forcément dire des coups, Moussa ça veut dire l'enseignement. Mais donc je pense pas que Oavo Shira Moussa c'est Oavo Notello Makot. Shiharo de toute façon.
C'est pour ça, ça veut dire
régulière.
Que les deux versets ils sont complètement.
Mais ici. Non, alors il faut comprendre. Il faut, de toute façon, même sans l'autre, même sans mon interprétation dans l'autre passage, même si en soi il faut comprendre. Qu'est-ce que Gmar veut dire? Gmar veut dire il faut frapper son fils absolument. Déjà. Qu'est-ce que Gmar veut dire? Déjà on voit de.
Non, celui qui frappe ça devient une mitzvah. Ah.
Non, il faut qu'il frappe.
La même manière que couper le bois. Si tu as du bois qui est déjà coupé, t'es pas obligé d'en couper.
Mais la Gemara dit que dans l'enfance, c'est pas comme ça. Il faut rechercher l'excuse pour le frapper. Comme ça, la Gemara dit. C'est ça que Gemara répond. Que dans le cas de la souka, s'il y a déjà du bois, pas la peine. Donc c'est pas en soi une mitzvah. Enfin, c'est pas un hercher qui est obligatoire, qui est mouchar. Alors que dans le chinour, intrinsèquement, il faut le frapper. Maintenant, évidemment, il faut trouver l'occasion où il a fait une erreur. Mais il faut chercher cette erreur. Comme ça, il faut comprendre comment ça marche. Ça a l'air bizarre.
Donc, faut frapper ses enfants, quoi.
Comme ça, pour l'instant. On n'a pas fini.
On rentre pas maintenant.
On n'a pas fini.
Le mec, il a sa femme qui n'a pas les rentrer chez lui, c'est dangereux.
Non, on n'a pas fini. Après, on va étudier. Amène une maramouette katane, s'il te plaît. Comme ça, déjà, on voit l'envers.
Il n'y a pas.
Et bah, elle est difficile, cette maramouette dans ma côte. C'est-à-dire que la maman a dit il faut chercher l'occasion d'éprouver son fils. Comment c'est possible? Mais en tout cas, déjà, au lieu de voir l'importance de frapper, on peut voir autre chose. Merci beaucoup. On peut voir autre chose. On peut voir que la Gemara, forcément, ne parle pas d'un coup cruel. Elle ne parle pas d'un coup d'un père énervé. Parce que celui qui cherche l'occasion, merci beaucoup, celui qui cherche l'occasion de frapper son fils, qui le fait parce que la Gemara lui demande, le pasouk dans Michelet lui demande, c'est forcément pas un coup cruel qui vient de colère. Parce qu'on parle d'un enfant qui se comporte bien, que naturellement il n'aurait pas frappé.
C'est retenu.
C'est comment ?
Il va retenir son coup.
Voilà. Non, il n'est pas intéressé de frapper. Ouais, puisqu'il se comporte bien. Et malgré tout, la Gemara préconise ça. Donc forcément, qu'on parle de quelqu'un qui est en train de vouloir
améliorer.
améliorer quelque chose, et il pense, et la Gemara elle considère comme ça pour l'instant,
que 19 sur 20.
Voilà, c'est étonnant, c'est très étonnant, il faut comprendre. En tout cas,
expliquer aussi de la même manière que j'aime quand un homme il prend un coup, il doit réfléchir d'où il vient, et s'il trouve pas, alors on dit qu'il sourit Michel à la Hava, ça va être. C'est quoi ce moussac du
C'est quoi il sourit Michel à la Hava
C'est quoi ce moussac Ça peut être la même chose, il faut comprendre ce que ça veut dire.
Alors explique-moi ce que c'est Michel à la Hava.
Non, moi j'ai une Gemara, est-ce qu'on la comprend pas.
Non, moi j'ai une raison. Moi j'ai dit.
Michel à la Hava, ça n'existe pas pour moi.
Ça existe.
Non mais la Gemara en parle. C'est... Et elle appelle ça Issourim Shel Ahava.
Issourim Shel Ahava, c'est un
Non, ça donne un rapport avec Hachem comme père. On a le même rapport. Non, c'est magnifique comme question. Elle est magnifique la question.
C'est une très bonne remarque. Toi tu dis que si on a trouvé dans la Gemara dans Brachot un moussab de Issourim Shel Ahava, un Issourim qui ne vient pas expier les fautes. C'est un grand truc dans la Gemara. Est-ce que Yesh Issourim Belochet ou En Issourim Belochet? Est-ce qu'il peut avoir une souffrance qu'Hachem il envoie à l'homme? Chaque souffrance. Donc. Qui peut venir sans chet, qui ne vient pas expier une faute, qui vient des chèmes, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme, ou alors non, ça n'existe pas. Et passe tout, en Issourim, Belochet, Agmara le dit. Mais, alors c'est quoi cette notion de Issourim? En tout cas, moi j'ai dit, si un moussak de Issourim chez l'Ava, de souffrance qu'Hachem il envoie à l'homme, parce qu'il aime, il faut comprendre ce que ça veut dire, alors peut-être que là aussi, notre Agmara parle de ça. Mais je sais pas, il faut étudier le sujet des surchauffes. Ici, je pense en tout cas chez nous, peut-être c'est ça chez Al-Kadar Barakoum. C'est qu'on parle d'un enfant hein, qu'en soi, les Khaoura, rien n'oblige le père. Parfois, le père ou le prof, là on parle du rab, il frappe parce qu'il est bloqué. L'enfant, pas bloqué, genre il perd sa confiance ou son rôle de père, mais il sait plus comment faire avancer le fils. Il glande complètement. Ou alors il part dans tous les sens. Mais jamais, c'est pas notre sujet maintenant, dans quel cas. Et là, parfois, ce que le père il va faire, ça va être réactif. Alors qu'ici c'est pas réactif puisque tout va bien. C'est un choix voulu du père. Il veut piquer son fils un peu entre guillemets. Il veut l'éveiller, il va trouver la petite bête. C'est bizarre, ça reste bizarre. Mais en tout cas on voit que c'est pas de la colère, puisqu'il est celui qui est en train de créer cette situation. Il faut voir à quoi ça sert. C'est-à-dire que pour stimuler le fils, pour éveiller le fils, pour recadrer le fils, il faut qu'il... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais raconter une histoire qui va un peu... Je dis pas que c'est la même idée, mais ça va un peu nous faire comprendre. Il y avait un rav à l'écoute, le Mashgiach à l'Yeshiva de l'écoute, il s'appelait Rav Varfogel. Et il racontait que quand il était jeune homme, il venait des États-Unis, il est parti à Mir en Lituanie, en Russie blanche, je sais pas où, et il souffrait beaucoup, il était seul et tout, il se sentait très seul. Il savait pourquoi Hachem lui faisait ça. Et après, il est devenu Mashgiach, des dizaines d'années après ou des années après, il est devenu Mashgiach à l'écoute, à l'Yeshiva de l'écoute. Et il a dit, maintenant, je vois que les souffrances que j'ai endurées quand j'étais jeune, à la yeshiva, je me sentais seul, etc. Ça m'a donné une sensibilité qui m'aide en étant Mashgiach. Par exemple, son élève, moi je connais bien son élève, c'était mon Mashgiach à Brachfeld. Quand il est arrivé aux États-Unis, il venait des Reds, il était un peu perdu et tout. Et il s'est accroché énormément à ce rave-là, qui savait, il avait de la gentillesse, il avait de la sensibilité, il savait.
Détecter l'enfant qui a besoin de.
Ressentir les enfants. Et ça, le rabbin Kroyer, il a dit, c'est grâce au fait que j'ai enduré moi-même des difficultés quand j'étais jeune. C'est-à-dire que celui qui fonce, sa vie, elle fonce à toute allure, c'est très dangereux. Quand on va avec une Ferrari 250 à l'heure sur l'autoroute en Allemagne, peut-être ça peut passer. Mais si on est dans des petites rues de Sarcelles, ça fait des morts. C'est-à-dire quoi, celui qui toujours est habitué à foncer, il écrase les gens autour de lui. Là, le Uber, le chauffeur, c'était un bendod. Il est habitué à foncer dans sa vie. Pas à foncer en voiture aussi, il a failli faire un accident, mais à part ça, il est habitué à foncer. Alors, il est déjà divorcé, il est déjà si, il a... Elle est comme ci, celui-là, il est comme ça. Il est habitué à foncer dans sa vie. Et quand il est habitué à foncer, il n'a pas cette sensibilité, alors il prend des murs et il écrase des gens. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, quand on veut une sensibilité, il faut... Comment ? Il faut traverser certaines épreuves pour pouvoir avoir cette sensibilité. Celui qui n'a jamais connu l'épreuve, il a du mal. Donc ce fils-là, où tout est parfait pour lui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'il n'a jamais vu le revers de la médaille, il n'a jamais connu ça. C'est dangereux. Et à part ça, il n'a jamais été aussi réprimandé. Donc il est parfois un peu hautain. Et la Torah dit ça, qu'il faut faire attention à ça. Il faut se méfier de gens qui réussissent trop leur vie. Tant mieux pour eux, mais c'est dangereux.
Mais pourquoi par les coups?
Alors, ça, il faut voir. Il faut voir pourquoi le coup. C'est-à-dire le coup.
On parle d'un coup qui peut donner la mort, même, vraiment.
Non, ça, c'est bizarre. Ça, c'est pas. La camarade parle que. Excusez-moi, j'ai dit. Par exemple, c'est le. Peut-être le bâton, il a glissé sur le cœur. L'obéchané. C'est sur un organe vital. C'est pas. On va pas faire ça, c'est évident. Enfin, on n'est pas fou. C'est-à-dire, c'est sûr que la camarade ne parle pas de ça. Il parle que Milachani, le fils, je sais pas, il venait de se sentir mal.
Genre, non, il peut lui donner de l'argent, il peut lui faire des habits.
Non, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi le coup.
Pourquoi on parle de coup.
Alors, il faut comprendre pourquoi le coup. Mais Stam.
Stimuler quelqu'un pour qu'il ait de la difficulté. Je comprends. Mais les coups, c'est. On voit pas de la stimulation. Qu'on voit que de la
punition. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est le Khawan. Nous, ça nous frustre.
Ça punit, mais.
Si ça, ça frustre. Alors après, on va voir. Après, on va voir la deuxième étape, les Maasé. Comment ça marche aujourd'hui par rapport à Igmat, on va voir tout de suite dans Moed Katan. Mais avant ça, ce que je veux dire, c'est que ce coup-là, forcément, c'est pas un coup qui vient de violence. C'est un coup prémédité, calculé par le père. Pour apporter quelque chose. On a du mal à se représenter ce que ça apporte. Mais il vient former son fils. Et c'était conseillé par les coups. Maintenant, on va étudier une Gemara. Les Khawa va.
L'exemple de la Sabbath Simon, il réagissait pas. C'est pas les enfants qui
réagissaient tout. D'accord, mais ça veut dire que ce fils-là, ça c'est sûr que si le fils. J'ai pas dit que c'est seulement s'il réussit qu'il va le frapper.
C'est le choix aussi.
Ah, ouais. Seulement, je dis que même s'il réussit, la Gemara le dit. Oui, mais c'est sûr que s'il réussit pas aussi, on parle pas de ça. Je veux dire, c'est même s'il réussit, il y a un moussac de le punir. Enfin, de le frapper, de chercher la petite bête, c'est-à-dire pas, c'est pas le punir pour rien, de trouver les petites erreurs. Non, normalement, on dit ferme les yeux. Normalement, aujourd'hui, sûr, on va dire ferme les yeux quand c'est des petits trucs. Mais même s'il est parfait, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si un enfant, il fait des petites erreurs, des grandes erreurs, alors il faut le plus possible, évidemment,
fermer
les yeux sur les petites choses. Et regarder que quelques grandes choses ont fait de ça. Je sais pas, c'est pas. C'est évident ça. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en train d'étudier le sujet lui-même des coups. Et la Gemara dit que si l'enfant il est kivyachol parfait, presque parfait, il faut se débrouiller pour remarquer qu'il n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que s'il est parfait, c'est dangereux. S'il pense qu'il est parfait, c'est dangereux. Mais évidemment, si l'enfant est comme un enfant normal, en bonne santé, qui est agité et tout, il faut laisser l'agitation de côté et choisir les routes potes, etc. C'est-à-dire, c'est évident qu'il faut le moins possible, il faut limiter, ça fait des dégâts. Mais s'il est presque parfait, il faut se débrouiller pour qu'il ne soit pas considéré comme parfait. Les Abdil, quand un élève, il fait parfaitement son contrôle, parfois tu lui mets 20, mais parfois quand c'est un contrôle un peu plus difficile, tu veux pas qu'il ait 20. S'il a 20, il a 20. Mais tu essayes d'être intransigeant, parce que voilà, tu sais que s'il a 20 dans un truc qui est de très haut niveau, il va s'envoler complètement. Alors tu te débrouilles pour voir des choses.
Pas juste.
C'est ce que je dis.
Il mérite 20.
Tu es intransigeant. J'ai pas dit que tu changes. Tu es intransigeant.
Si c'était pas juste.
Non.
Si c'est juste. Là-bas, c'est juste.
Qui trouve la petite bête. Dans un contrôle en général, quand c'est un truc intelligent, tu peux trouver la petite bête. Quand c'est un QCM, s'il a 20 sur 20, il a 20 sur 20. Mais quand tu fais un truc de développement, par exemple une rédaction, tu mets pas 20 sur 20 à la personne. Ça n'existe pas. Mais pourquoi ? Parce que tu veux qu'il aille plus avant. Si c'est oui ou non, il a 20 sur 20. Mais si c'est une question de réflexion, il y a toujours plus. Donc s'il y a un enfant qui est faible et qu'il a réussi aujourd'hui à développer, tu vas l'encourager. C'est un enfant qui est presque parfait. Même s'il a bien développé, tu veux pas qu'il croie qu'il a terminé son travail. Sinon, c'est dangereux. Donc tu vas voir la phrase qui est mal formulée, qui est pas dans son ordre, etc. Tu vas lui mettre 19. Comme j'allais, je veux dire, c'est. Là, la morale parle par rapport à un enfant qui est au contraire ultra agité, etc. Tu vas chercher l'inverse, à minimiser les cas où tu vas remarquer.
Permettre de continuer à grandir.
Voilà. Okay. Ça dépend. Chaque enfant, il faut. D'après l'enfant, c'est évident, mais c'est pas. Attends, je vais tuer une autre Gemara. Qui est ramené dans la halakha. Shifra shel bedrebi. Moed katan daf yudzain amudalef. Shifra shel bedrebi maï. C'est quoi l'histoire de la shifra de Rebi? Elle est très chachouve, la servante de Rebi, elle est souvent mentionnée dans la Gemara. Des amta d'ailleurs, c'est la servante de Rebi, c'est elle qui a offert Rebi au ciel. On avait fait cette Gemara quand j'étais en Iftar. Quand il y avait une dispute entre les malachim en haut et les rabbanim en bas, est-ce que Rebi va rester sur terre ou il va. Et quand elle a vu tellement il souffrait Rebi, elle a dit alvaï que les cieux gagnent la guerre. Et les cieux ils ont gagné, Rebi il est niftar. Comme ça la Gemara dit. Non, ma serait tout. En tout cas, ça c'est la servante de Rebi. En tout cas, la servante de Rebi, souvent elle est mentionnée dans la Gemara. C'est quoi l'histoire de la servante de Rebi? Alors, Amta debe Rebi, chazite le avu gavra, elle a vu un homme, d'ave maché libno katan, libno gadol. Il frappait son fils gadol. On va dire adulte pour l'instant, pour ne pas. Son fils qui était grand. Elle le frappait, il le frappait. Il a vu son fils, je sais pas, il se comportait mal et tout, il a frappé son fils. Amra, elle a dit, Live Aou Gavra Beshamta. Que ce père-là soit en idouille. Pourquoi ?
Excommunié.
Il soit excommunié. Celui qui est en idouille, on peut pas faire certaines choses avec lui, etc. Il y a beaucoup d'alachot. Aujourd'hui, on fait pas en général l'idouille, mais au temps de Khazal, c'était fréquent. Si quelqu'un manquait de respect à un rab, ou si mentionnait Shem Sharim Levatala, etc., on mettait en idouille. Ce monsieur, il a frappé son fils adulte. La femme, la servante de Rubi, elle a dit qu'ils sont en idoui. Pourquoi ? Les caravars, Mishum Belifne Iver, le Titan Mirchol. Il a transgressé l'interdit de l'Ifne Iver devant un aveugle. Ne mets pas une embûche. C'est quoi ? Ce pasuk-là, il n'est pas seulement Kipchuto, ne pas mettre une peau de banane sur un aveugle, devant un aveugle. C'est aussi ne pas provoquer à un homme une avéra. Quel rapport ? Les Tania, la Braïta a dit. Velifne Iver, le Titan Mirchol, Bemake l'Ibno Gadol à Katomedaber. Le pasteur qui parle, entre autres, de quelqu'un qui frappe son fils adulte. Pourquoi ? Il dit Rachid, et Kevan de Gadalou, étant donné qu'il est grand, il est majeur, Shema Mevaed Be'aviv. Peut-être qu'il va rejeter son père, va aveler Iou Marchilo, et dans ce cas-là, c'est le père qui l'a fait trébucher. C'est-à-dire, quand le père, il frappe son fils qui est Gadol, le fils il a un rejet, qu'est-ce que tu veux ? Qui tu es pour m'éduquer ? Et il va lui rendre la monnaie de la pièce, il va s'énerver contre lui, il va mal lui parler, il va le mépriser. Donc il va faire une avéra très grave de Mekale la viveimo, de Makle la viveimo, c'est Aro, Makle la viveimo. Et c'est qui a provoqué ça chez ce rejet sur le fils ? C'est le père. Donc le père il transgresse l'ifne iveron chitel mirchol. Tag maral. C'est ramené dans la halakha, dans le shran aour. Donc d'un côté, on a le. Charlot, j'en vois plus, mais c'est.
Oui, mais le Hirba Shmuel Banav, c'est une halakha.
Oui, mais ça c'est un peu différent, ça. Ça c'est... Non, ça c'est.
Plusieurs.
Non, le Hirbid Albana par rapport à Kibud Avaim. Ça c'est qu'il ne faut pas être trop exigeant envers ses enfants. Il faut fermer les yeux par rapport à Kibud Avaim pour ne pas les faire trébucher dans le Kibud Avaim. Oui, mais c'est. Là, il y a un autre. C'est de façon générale. C'est par exemple, ne pas lui demander.
T'es quoi de McPeak
Voilà, et qu'il lui fasse le café, il manque un peu de sucre et tout. Fermez un peu les yeux par rapport à ça. Mais il y a une autre halakha, je crois, hein, peut-être je me trompe. Une autre halakha qui est.
Après 13 ans.
Non, mais c'est pas cette référence qu'il faut, c'est dans Yoredea. Mais bon, tu vas m'expliquer. Excuse-moi, Yoredea, Rechmem. C'est genre en Rech guillemets, l'étape guillemets en général. C'est-à-dire le volume. Mais. En tout cas, à partir de quel âge elle est cette Gemara ? Est-ce que la Gemara donne un âge ?
Gadol.
Maquel igno Gadol. Gadol en général, c'est la majorité d'après la Torah, c'est 13 ans. Mais ici, ça ne dépend pas des 13 ans. Ici, en réalité, ça dépend de la réalité. Si cet enfant, il est déjà à l'âge où il rejette, et ça dépend des enfants, ça dépend de la sorte de coup que le père y donne, ça dépend du contexte, ça dépend si c'est en privé, en public. Il y a des enfants que dès qu'ils ont 12 ans, tu leur fais en public, ils vont s'énerver parce qu'ils sont gênés. Il y a des enfants, c'est l'inverse, des enfants de 3 ans qui vont vouloir frapper leur père. Il y a des enfants de 20 ans qui sont encore sous le. Comment ? Sous la tutelle de Ariane ou de Gmara ? Ariane Gmara, donc Kidushin qui dit.
À 3 ans, selon ce que tu viens de dire, à 3 ans, il peut être considéré comme gadol ?
Ouais.
Oui. À 3 ans ? 2 ans ?
Ouais.
Parce que très souvent, avant 2 ans, vos parents, quand ils sont au contraire très petits, ils commencent à rendre.
Oui, mais ça, ça n'a pas vraiment. Ça, je vais expliquer. Ça, ça n'a pas vraiment de mashmaout. Parce que ça, c'est du tac au tac.
C'est ça.
C'est pas vraiment une mashmaout. Rav Volbeu, il dit une phrase, mais c'est pas vraiment halakhique. On verra après. Lui, Rav Volbeu, il dit aujourd'hui, même à 3 ans, ça fait un rejet du fils. Donc ça fait partie de la Gemara. Mais c'est pas vraiment. On verra. On va voir. Il est massé dans les poskim. Il y a une Gemara. D'abord, j'ai commencé par ce qui est écrit dans Chazal et les Rishonim. Après, aujourd'hui, des fois, c'est l'approche personnelle de la personne qui influe, des fois, sur son regard. Donc je veux pas. Je veux d'abord. Khalak, merci beaucoup. Ouais, mais je vais ramener la grande pitch YouTube. D'abord, je vais voir. Merci beaucoup. Je vais voir si je trouve. Alors, Shulchan Aruch, Siman Reshmem, c'est le Siman de Kibud Avaim, Sif Kaf. Sif Yutet d'abord, je vais lire. C'est la halakha qui l'a ramené Moshe. Assur le Adam, le Arbid Ulo Albana. Un homme, il n'a pas le droit de peser le joug comme ça sur son fils, ou les Dagdek, Birvodo Imaem, tout, faire trop de chichi de kavod avec ses enfants. Shelo Yaviem, il Mirchol, pour ne pas les faire trébucher, ils ne vont pas pouvoir le respecter tellement. Et là, Imchol Vialimelavem, il faut qu'il ferme un peu les yeux, etc. Sheav, Shemachal, Kvodo Kumachul, puisqu'un père qui est mochel sur son kavod, Kvodo Machul, vous voyez que le père, il doit se respecter, mais il ne faut pas qu'il exagère. Ça, c'est une halakha. Alakha d'après, Amakel ibn Gadol, donc Siman Reshmem dans Yoredea, pour celui qui veut revoir. Après, je dirais référence pour celui qui veut étudier avec un Khaber, par exemple. Hein. C'est Moed Katan, comment ? Ah, ils ont envoyé ces références-là ? D'accord. Ce Shranaou aussi ? Non, mais c'est maintenant. Non, je l'ai pas donné. Amakel ibn Gadol, celui qui frappe son fils Gadol, on va dire adulte pour l'instant, pour ne pas se casser la tête. Ayumenadimoto, on le mettait en idoui. Aujourd'hui, on n'utilise plus trop l'indoui, mais en tout cas, en soi, c'est Mnidoui. Share over, alifne, iver, l'otitemirchol. Ça, c'est les mots du Shranaouk. Dis le Rama,
Velo mikre gadol et davarze, rak achar kav bet shana ou kadel shana. Il s'appelle adulte par rapport à ça, seulement pas à partir de 22 ans ou 24 ans. C'est quoi cette histoire? D'où il sort ça?
Ans, ouais.
Il y a une gemara dans Kiddushin qui dit ad yader al. Ça varie des brères, quoi. Tant que tu as ton fils est sous ta tutelle, éduque-le. Est-ce que par rapport au mariage, est-ce que par rapport au moussard là-bas, le former, la gemara là-bas, elle est mufarchim. Et la gemara dit c'est quoi cet âge-là? Parce qu'après il est plus sous ta tutelle. La gemara dit d'après un lachon entre 16 et 22 ans, après un lachon entre 18 et 24. Parce que la gemara dit avant 16 ans, Rashi Abaye sait qu'il n'a pas assez de maturité pour comprendre vraiment ce que tu veux de lui. Entre 16 ans ou 18 ans à 22 ou 24 ans, il est assez mûr. Comme ça, la gemara dit. Et après ça, il est trop indépendant. Donc lui, le Rama, il pense que quand la gemara ici elle dit Amake libno gadol, ah j'ai pas demandé à toi parce que je vais pas exagérer, tu peux me laisser un ritva sur ma séchette. Sur ma séchette.
C'est en haut à gauche, tu dégommes.
Moed Katan, je crois.
6. 6. Peut-être.
Donc déjà, là, la halakha, elle est dans le Shulchan Aruch.
C'est ça.
Donc en soi, vadaï que si l'enfant.
Si il est marié, il est marié à 19 ans.
Non, parce qu'ils me disent que quand il est marié, déjà, il est indépendant et ça l'énerve quand. C'est déjà, c'est autre chose. Mais en tout cas.
Quand t'es marié.
Il est plus, il se considère plus sur la tutelle de son père, il faut le libérer, en général. Mais en tout cas. La Gemara ici, qu'est-ce qu'elle dit? Donc je reprends. Cette halakha dans la Gemara de Moed Katan. Merci beaucoup. C'est une halakha, mais assez dans le Shulchan Aruch. C'est une halakha évidente dans le Shulchan Aruch. La seule question, c'est merci beaucoup. C'est à quel âge qu'il est gadol? Le Shulchan Aruch, il a ramené la Gemara. Comme d'habitude, il a ramené la Gemara, il s'est pas cassé la tête. Il dit s'il est adulte, s'il est gadol, c'est assur. Le Rama, lui, il considère que cet âge-là, c'est 22 ans ou 24 ans, etc. Alors il dit le. Donc d'après ça, ça n'a pas trop d'implication pour nous. Qu'aujourd'hui, qui va frapper son fils après 20 ans, c'est rare, on parle pour un enfant de 10 ans. Dis-le, Ritva, dans ma sechette, Moed Katan la Fiyudzaï. Pirouche, Af Bézé, Akatoum Medaber. Même quand la Gemara dit, Lifnei Ver, Mershol parle de quelqu'un qui frappe son fils Gadol, la Gemara ne veut pas dire que ça parle uniquement de ça. Elle veut dire que ça inclut même ce cas-là, que les Chaora, Afalpi Shimit Kaven et Yasro, bien que la Kavana du père soit d'être Meyasser, on avait dit de cadrer son fils. Pourquoi? Parce que ça va le faire trébucher. Venirim Dvari, Délo Gadol Gadol Mamash. Dis le Ritva, je pense, ça a l'air. Quand la Gemara dit Gadol, ne veut pas dire la majorité, 13 ans ou. Et là, à Kol et Fichivo, chacun d'après sa nature, chez Yesh Lachouch, qu'il y a lieu de craindre, chez Idras Kenegdo, chez Atris Kenegdo, chez Idras Kenegdo, qui va se rebeller, Bedjibour ou Bemaasa par une parole ou par un acte, qui a fait l'oloyer bar mitzvah, même s'il n'est pas encore bar mitzvah, en Raoui la viol, idé maka ou maké ou maké la ville. Il ne faut pas le faire trébucher, même s'il n'est pas encore mamash chalé mitzvah, le faire trébucher chalé chalé dans maké la ville. On ne parle pas d'un enfant de 1 an qu'il fait comme ça, tac, je ne pense pas. Et là, alors comment il va faire dans ce cas?
Si c'est Cheyar qui s'énerve.
S'il y a un risque qui s'énerve et qui réagit d'une façon
violente
ou rebelle. Qui manque de respect, mauvais, rebelle, il ne faut pas le faire. Alors, comment il fait dire Ritva? Et là, Ishadlenu Mitvarim. Il faut qu'il parle avec lui, qu'il encourage, qu'il, tout ce que tu as dit. Ishadlenu dans le bras, ça veut dire.
Complimenter,
etc. Ou Mishum de Ucha de Milta de Begadol Shriar. Comme c'est plus matsouï dans un adulte, alors la Gemara elle dit un enfant Gadol. Donc d'après lui, Bechal, d'après l'Ivra, le Pshat Pashut Gadol, c'est dès qu'il est bar mitzvah. Dis-le Ritva, Kaniré, en tout cas adulte ou bar mitzvah, je sais pas ce qu'il veut dire. Il dit sache que c'est l'Avdav quand même s'il est moins de bar mitzvah. Donc le Rama il te parle de 22, 24 ans. Et le Ritva il te dit n'importe quoi. Il était avant Rama bien sûr, mais je veux dire, il te dit c'est pas ça le sujet. Le sujet il est juste comme ça, on est dans cette halakha, je voulais juste Rabbi Akiva Eger, Khlushé Rabbi Akiva Eger, ce que j'avais parlé avant. Aliyare Adam et Chinok Beozno. Pas qu'un père il dit à son fils attention, on a très hâte de te recevoir ce soir. Et il lui dit tu vas être puni gravement. Et la Malkiumiyad ou Ishtok, l'Omerlokum. Soit il le frappe tout de suite, s'il faut le frapper. Soit il se tait. Velo et Marloklum. Pourquoi? Deyesh la rouge des Mahmat Emma et Abedatinok à Smoledat. Comme ça, Chazal dit, Masekhet Smachot. Rachid dit qu'une fois un père a menacé son fils, le fils s'est suicidé. Il dit quand je reviens du Bédamira, je te déchire. Donc, voilà, la mère, elle dit, elle est incapable. Elle dit quand le père est rentré, il te déchire. Il faut pas le faire. Parce que le fils, il s'angoisse.
Oui, oui, si le père, il dit rien à son fils, mais non, il le frappe après quand même.
Non, il fait son choix. Il fait son choix.
Maintenant,
il fait son choix.
Mais il peut frapper par exemple demain.
Ça, c'est énorme. Je pose la question, comment lire ça?
Comment lire ça?
Parce qu'en général, ça n'a pas d'effet. C'est juste le fils, il sent. S'il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de cause à effet.
Le frappe, il est à la joue devant du monde. Il peut pas vraiment devant des gens. La fila, c'est Roshana, elle dure jusqu'à 4 heures. Il rentre à la maison.
Jusqu'à 4 heures. Et que le fils est jusqu'à 4 heures, c'est un problème. C'est la faute du père. C'est la raison pour laquelle le fils, il allait être frappé par son père, parce que le père, c'est un imbécile.
possible.
Pourquoi?
Parce qu'il arrive son fils jusqu'à 4h l'après-midi.
Non, donc il a voté à 10h.
Ah, 10h, d'accord.
Et le père, il a tué, il a au kippour.
Ah, il a renvoyé à la maison à
10h. Il a rentré à la maison, et le soir, il mérite un coup pour
ça. Alors, ça, encore une fois, le menacer à 10h, que le soir, ça, c'est à sourd. C'est dangereux.
Ne rien dire.
Maintenant, ne rien dire. Si après le soir, il comprend la causalité, il comprend le cause à effet, et c'est fait de façon intelligente, il le remet un peu dans le bain, il dit, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé? Oui.
Ah oui, ok. Non, je vois.
Il rappellera plus.
Il y a, à la fin de ce Ridushé Rabbi Kveg, il ramène un Maharikash, Mari Castro, il dit quelque chose, c'est une chela, comment lire? Amaki bno katan yotermida, et celui qui frappe son fils très petit, Ayuminadimoto, il le mettait en idouille. Cette phrase, elle est bizarre. Parce que nous, on parle à Maké Libno Gadol. Il y en a qui disent que c'est un Taout Sofer dans le Pisquetosfer.
Non, le strap est terminé peut-être.
Non, à Maké Bno Katan. Ah, Maké, ah oui, à
Maké.
Ah, Maké Bno Katan, Yotermidaï.
Il frappe trop.
Il frappe trop, mais pourquoi Katan? Ah, tu
comme
ça. Maké Bno Gadol.
Gadol à son.
Ah, Maké Bno Gadol, mais d'un coup. Ah, j'avais pas compris
le
Kazak.
Mais le petit, trop, il va se rebeller à la fin, alors tu vas le pousser à ça, non?
Peut-être ça, Pichat. Alors, ce que j'ai vu, dans la Kutosef, il ramène deux Girsaot, etc. Il se casse la tête sur ça, comment on égorèse.
Il
parle de ça? Oui. Il y a un Kutosef sur le Chinuch Rabbanim.
Il
y a un livre sur Chinuch, il parle de Souignala, il se casse la tête. Bon, bref. Mais peut-être c'est comme ça que tu dis. Peut-être à Bakebno Gadol, même un coup. Bakebno, mais Katan, il est terminé. On voit que le père est violent, alors il le met en inou.
Comme tu dis, après ils sont immunisés, comme tu dis.
Ils sont immunisés, voilà. Peut-être. En tout cas. Donc, pardon. Mais si on a vu déjà une source dans la Gemara, dans la série de Makot, qu'il faut chercher entre guillemets à frapper son fils. On a vu une Gemara qui est pas contradictoire, mais une Gemara dans Moed Katan qui dit celui qui frappe son fils adulte, c'est interdit. Parce qu'il fait trébucher. C'est quoi adulte? D'après le Rama, 22 ans, 24 ans, enfin, un adulte quoi. Et d'après le Ritva, ça dépend de chaque enfant. Et si ça dépend de chaque enfant, d'après le Ritva, évidemment, ils disent Ravolbeu, ils disent tous les éducateurs, ça dépend de chaque génération. Dans chaque génération, ça va changer. Maintenant, il faut comprendre. Maintenant, on va expliquer. Puisqu'aujourd'hui, on est habitué au monde, il faut savoir une chose, que ça c'est, Michel Kuzon explique bien à l'éducateur, que souvent la psychologie, elle n'est pas basée sur des faits, elle est basée sur de la philosophie. Ça veut dire que il y a 50 ans, disons après la guerre mondiale, quand ils ont vu ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale, l'obéissance aveugle des nazis, des soldats allemands à leurs supérieurs, ils ont compris le danger de cette obéissance aveugle. Ils ont décidé de casser un peu cette idée-là, cette hiérarchie comme ça, des maîtres envers les... etc. Ils ont décidé de casser un peu. Et ça s'est développé, côté philosophique, ce fait que chacun il doit grandir comme il veut, on le laisse pousser comme il veut, fais ce que je veux, etc. Il ne faut pas que ce soit... Et, c'est pas la seule raison, il y a beaucoup de raisons qui ont fait que, philosophiquement, ils ont décidé qu'un père, il n'a pas de droit envers son fils. C'est aussi le fait que jusqu'à il y a deux siècles, tout le monde était mamie. Dans le christianisme, etc. Je parle dans le monde qui nous entoure, je ne parle pas ailleurs. Mais au fur et à mesure, depuis quelques siècles, ils ont commencé, depuis 4 siècles avec la Renaissance, ils ont rejeté plus ou moins la Emouna. Et les Lumières, les droits de l'homme, etc., il y a 2 siècles, en France, donc ça a amené beaucoup d'indépendance de l'homme. Autrefois, Hachem, c'était le centre du monde. Hachem est qui voit comme Hachem, en tout cas, pour l'instant. Et après, c'est devenu l'homme le centre du monde. Une fois que c'est devenu l'homme, un peu plus tard, le dernier siècle, c'est devenu l'enfant, c'est le principal. Enfin, l'enfant en soi et l'adulte en soi, etc. Donc, ils ont enlevé, puisqu'il n'y a plus de transcendance d'Akadosh Baruch Hu, que je ne peux plus imposer à mon fils. Il y a une réalité qui demain va changer. Ça, c'est des débats philosophiques. Ces débats philosophiques ont créé des réalités psychologiques. On a commencé à remarquer que si on brime l'enfant, alors il va se rebeller. Ou si on brime l'enfant, on va le bloquer, on va l'empêcher de se développer, etc. Tout ce que la Torah elle dit, Choser Shifto Senebeno, les psychologues ont été cholek sur ça.
C'est
pas aujourd'hui, il y a 50 ans. Comment?
D'accord, mais là ce que tu es en train de dire, c'est que cette philosophie qui vient à mettre l'enfant sur un petit peu un piédestal, etc., vient en
corrélation. Une philosophie.
Mais vient en corrélation au fait qu'on est.
Perdu la Emouna.
Exactement, c'est-à-dire se détacher de la cage au rond. Et donc du coup, on a envie de se détacher.
Non, parce qu'on est bloqué, quand on n'a plus l'autorité d'Akjouakou, on n'a plus l'autorité parentale. Ah! Plus tard, ils n'ont pas remarqué au début, ils n'ont pas remarqué ça. Au début, ils ont voulu une société qui est plus ou moins brillable et nafcha, qui est saine, sans Akadosh Baruch Hu, mais ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas. Par exemple, le Hubert, l'Avdi, j'étais là dans. Il m'a expliqué, lui, il est Ben Dod. Il m'a dit, je ne suis pas dati, je dis en hébreu parce que j'enregistrais, mais il n'est pas dati, mais bon, il n'a pas mangé de la tartiflette. Je dis, c'est quoi tartiflette? Il m'a dit, il y a du porc dedans. Non, il m'a expliqué quand il était chez son ex-belle-mère, elle lui donnait de la tartiflette pour l'énerver, parce que c'était une française. Mais dis, moi, je suis pas dati, mais quand même, je demande pas qu'il me donne du halal ou du kasher, mais il me donne du, de la tartiflette, après du boudin et tout. T'es très énervé. Il m'a dit, moi, je veux pas être trop religieuse. Là, j'étais avec une Tunisienne, il m'a dit, il veut me prendre une badoda. Sa famille était trop religieuse, je pouvais pas supporter. Et, mais non plus une laïque française comme ça, athée, je peux pas. Moi, je veux choisir. Il m'a dit, moi, je fais ma vie, moi, je respecte. Quand chez ma belle-mère, il faisait la prière, je me taisais. Mais ne me dis pas de faire le ramadan et tout. C'est-à-dire quoi? Lui, il est en train de dire, et c'est vrai, beaucoup de gens vivent comme ça. Ne m'imposez rien. Je vous impose rien. Je fais ma vie, faites votre vie. Lui m'a dit avec ses mots de Bendot, quoi. Comme il faut. Et il est divorcé, etc. Mais en tout cas, ça, c'est quand on efface l'autorité d'Akbarou. Après, forcément, on efface l'autorité parentale. C'est une évidence. Donc, c'est venu à la base d'un. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que maintenant, quand on comprend que beaucoup d'études psychologiques ont été faites, c'est pour ça qu'il y a du yo-yo des fois en psychologie. Pourquoi? Pourtant, c'est des faits. On te montre des faits comme quoi, quand tu fais ça à ton enfant, après, il y a des réactions. Non. Il y a une philosophie de vie qui demande à créer une certaine société. Et donc, on développe, on constate certaines choses. On peut toujours constater. C'est facile de constater, de créer, de recréer. Volontairement ou involontairement. Béonès ou Beratsan, ça ne change pas. Ce n'est pas un autre sujet. Ce n'est pas pour critiquer la psychologie. C'est juste pour expliquer d'où ça vient. Et donc, on a créé un système où on n'a pas le droit d'imposer à l'enfant. Philosophiquement, une fois qu'on n'a pas le droit d'imposer à l'enfant, psychologiquement, on explique que si on lui impose, ça le brime et ça l'empêche de développer, etc. Parce qu'on n'a pas d'excuse philosophique pour le former. Aujourd'hui, ils ont vu que c'est une catastrophe. Depuis quelques années, ils ont vu que c'est une catastrophe terrible parce que l'enfant, il grandit sans aucune limite. Alors lui-même, il est angoissé terriblement. Parce que quand... Dans un exemple. Moi, je vais ici, le mur, il est dur. Je sais que je ne peux pas dépasser. Mais si le mur, il est malléable, je peux peut-être passer. J'ai l'instinct de vouloir... Tu sais quoi ? Peut-être je vais passer. Quand il y a une porte qui est fermée, c'est dur de l'ouvrir. Tout d'abord le plus fort. Si le gars il se casse le bras, il va plus essayer. Mais s'il voit que des fois la porte elle s'ouvre, alors il va forcer jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Et il va vivre en angoisse totale. Mais il sera habitué que toujours il peut bouger les limites. Il peut toujours aller plus loin. S'il peut aller plus loin, alors rien ne le retient. Il est angoissé lui-même. Chacun il a des angoisses personnelles parce qu'il sait qu'il a des instincts qu'il ne peut pas dominer. Qu'il a peur de ne pas pouvoir dominer. Il ne sait pas où aller. Si il sait, quelqu'un par exemple qui sait, si je n'ai pas les moyens, je ne dépense pas. Alors il est tranquille. Le jour où il n'a pas les moyens, il ne dépense pas. Celui qui sait que même quand il n'a pas les moyens, il peut dépenser au-dessus. Il fait des emprunts, il a un découvert, etc. Rien ne l'empêche. Après il se dit, c'est dommage, il ne faut pas que je dépense tellement. Mais il y a une soirée, on lui propose une soirée, etc. Que ce soit au casino et tout. Bon, il ne peut pas se retenir. Il sait qu'il pourra toujours aller de l'avant. Alors il vit sous angoisse. Donc en réalité, cet enfant-là, c'est pour le bien de l'enfant. Yasser bin Khavin, Rekar, en réalité, pour le bien de l'enfant, il faut le cadrer. Mais comme ils n'avaient pas d'excuses, donc ils ont créé un système inverse. Et quelle heure il est
là ? 5
heures. D'accord. Donc quand ils ont vu qu'ils sont partis trop loin, et les enfants, ils vivent sous des angoisses continues avec des médicaments, etc., ils ont compris qu'ils devaient revenir au système ancestral. Mais ils n'ont plus vraiment d'excuses pour ça, parce qu'ils l'ont cassé. En partie, ils reviennent vers ce système-là, les psychologues. Pas un petit peu. En France, ils sont beaucoup plus athées qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'ils ont plus de Emouna, ça tient plus la route par rapport à ça. La psychologie américaine. Mais
en France, ils sont pas encore revenus.
Non, parce qu'en France,
ils sont complètement athées.
Ils sont très athées. Et les droits de l'homme, par exemple. Non, ils sont froum dans l'athéisme. C'est-à-dire que même. Et maintenant, ils sont bloqués par exemple. Un exemple. Ils sont bloqués par rapport aux Bnei Dodim qui risquent d'être terroristes. Parce que comme il y a le droit de l'homme de vivre sa vie, t'as pas le droit de le filmer, t'as pas le droit si. Et là, ils ont fait certaines lois, ils veulent faire certaines choses qui dépassent l'entendement français. Parce que, non, mais c'est quoi le problème? C'est que quand t'es français, normalement, et que tu te respectes, tu peux pas faire ça. Mais il faut que l'autre aussi te respecte. Mais si l'autre ne te respecte pas et il a des armes chez lui, pour préparer un attentat, comment tu fais? Ils ont un problème, tu comprends? Ça, c'est pas un problème de société. C'est un problème de philosophie de vie. Et en France, ils sont très bloqués par rapport à ça. C'est pour ça que même sur le corps pédagogique, il y a encore ce problème-là, et psychologique. Mais quand tu es plus honnête avec toi-même, quand tu vois que tu te prends un mur, tu fais demi-tour. Donc, dans certains endroits, même dans l'Occident, ils ont commencé à faire demi-tour par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est ça que parfois on est influencé par l'Occident par rapport à ça, et on pense, on choisit ce Ritva par exemple, qui dit, même quand l'enfant il est petit, etc., parfois il se rebelle et c'est mauvais pour lui. Donc, on choisit de voir que ça. C'est une erreur. Parce qu'en réalité, ça, c'est le monde de l'Occident. Seulement quoi? Même que le Ritva, il dit, il faut voir chacun d'après sa nature, il faut voir chacun d'après sa génération. Parce que si on vit dans une génération où l'enfant, il entend un message autour de lui, et pas seulement autour de lui, le père lui-même, ce qu'il croit, c'est que j'ai pas de droit, pas qu'il a un droit, j'ai pas le droit d'imposer à mon fils une Torah, je veux dire, une morale qui transcende la réalité qu'il vit aujourd'hui. Si j'ai pas ce droit-là, je suis pas en mesure d'imposer. Si le père il hésite à chaque fois, si mon message il est honnête, bien lui-même, par exemple, le père il joue du yo-yo avec sa vie personnelle. C'est un yo-yo, comment il peut imposer à son fils? C'est le problème. Donc il préfère créer une société où on n'a pas le droit d'imposer. Où le fils, si on lui impose, ça le tue. Mais comme c'est impossible, après on s'énerve. Après on tape son fils. La Torah ne dit pas ça. Parce que la Torah, on a vu que même quand le fils n'a rien fait, il faut chercher la petite bête. C'est-à-dire quoi? On ne parle pas d'un père qui se lâche. On parle d'un père qui sait que le père, le fils a besoin d'être. Il sait que.
Il veut faire grandir.
Que l'enfant, il doit grandir. Et il sait que l'enfant, naturellement, il a des instincts qui le perturbent un peu. Et il faut l'aider. On parle d'un père qui est stable. Si le père n'est pas stable, il ne peut pas imposer ça. Il faut d'abord qu'il se stabilise. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un grand rapport entre ces deux sujets-là. Ce sujet de Makebno Katan, Makebno Gadol, c'est pas un sujet à part entière. C'est la question de savoir, est-ce que je pense que j'ai un message à apporter à mon fils, un message stable. Un exemple est Abdil, qui est un peu différent. Je parlais avec un professeur de physique, Goy, athée. Et il m'a dit, je sais que vous enseignez la Bible et tout. Moi j'enseigne que le monde il a tant et tant d'années, etc. Je sais que c'est contre la Torah. Vous avez dit contre la Bible, mais ça c'est ma croyance. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, parce que la science c'est aléatoire. Aujourd'hui on pense comme ça, c'est une vérité, il m'a dit, c'est une vérité aléatoire. Aujourd'hui on pense comme ça, peut-être demain on pensera à l'inverse. C'est rigolo de parler comme ça, ça veut dire, même si c'est vrai, c'est rigolo, parce que c'est-à-dire tu vis sous angoisse constante. Normalement on est censé vivre un monde de vérité. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Mais un monde où tout peut changer, il n'y a pas déterminisme, c'est angoissant. Mais le problème, c'est qu'en science, ils sont bloqués aujourd'hui par rapport à ça. Parce qu'ils voient beaucoup de choses qu'ils pensaient que c'était établi, ils voient que ça se casse. Et il y a des nouvelles théories. Mais en tout cas, celui qui vit ça sur le plan de la morale, il est perturbé. Il ne peut pas éduquer son fils. Puisque tout est aléatoire. Comment tu peux imposer à ton fils? Demain, ton fils, il va voir que ce que tu as donné comme théorie de vie, c'est sympa la route.
Il y a des choses que c'est pas vrai. Ben. Un fils qui monte sur un balcon qui saute.
Voilà.
Personne va remettre ça en question.
Exactement. Donc la seule chose qu'on peut aujourd'hui, c'est les choses de protection du corps de l'enfant. C'est pour ça qu'il développe énormément ce genre de trucs. Énormément. En Israël, genre le Misrad Achinour, etc., il développe, Misrad Abriut, il développe énormément ce genre de trucs. Parce que ça, c'est. Tu peux, genre, te mêler de la vie de l'enfant. Un père, il sait qu'il a fait envers son fils. Mais tout ce qui est éducation, quand toi-même, tu es en déperdition de repères, tu sais pas faire ça. Donc, tu vas choisir beaucoup de choses qui sont pas tellement importantes. C'est pas négatif en soi, mais tu exagères là. Ça, tu sens que tu fais quelque chose pour ton fils. Mais quand son fils, par exemple, il a des mœurs délâchées, il est en train de se tuer sa santé. Pas seulement sa santé physique. Sa santé morale, psychologique, spirituelle, il va en déperdition. Alors comment on fait? Alors on lui propose des médicaments contre le sida. On dit aux jeunes, étudiez ce sujet-là. On va dispenser des protections au lieu de voir à sa source. Parce que comme on a empêché l'enfant, on a empêché le père de comprendre cette base-là, que le père il est plus adulte. Mais si le père il vit quand en dépravé, comment il peut engager? Tu vois? Donc l'objet de créer une psychologie folle. C'est pas comme la philosophie, elle est folle, comme la psychologie, elle est folle. Et donc on parle de choses où le fils va se retrouver, il n'y a pas d'autrui, il va se perdre. Il va vivre sous médicaments. Parce qu'il est tellement angoissé de voir ses instincts qui se lâchent.
Et pourquoi le juif, il n'a pas le droit dans ce cas-là de recadrer comme quand il se met au bord du balcon, quand le fils il fait des bêtises,
c'est pareil. Exactement. C'est ça que la Torah te dit. C'est pour ça que la Torah parle tellement de recadrer.
Etc. Ils ont dit la génération, etc.
Oui, dans le monde.
Les athlètes. Ce que je veux dire, c'est que en soi, ce que je dis, c'est vrai.
Ça veut dire qu'un juif, il devrait. Non, mais si je dis, un juif, il devrait se comporter avec son fils qui va sur Taboutra ou même moins que ça, qui fait des droits, etc. De la même manière que s'il se mettait sur le balcon,
En théorie, oui. En pratique, un peu différent. En théorie, oui. En théorie, le père, il est censé être convaincu de la véracité de la Torah et de la morale que le père considère comme bonne pour son fils et être totalement rassuré quand il donne ce coup-là. Nous, on n'est pas rassurés. Maintenant, Allah Halema assez, étant donné que le fils il vit dans une société différente, et même le père, ça le grand problème.
Il ne croit pas vraiment
en lui-même et en la véracité du message qu'il veut donner. Et le fils, il entend autour de lui, il sait un peu ce qui se passe. Donc le fils, il est plus précocement, il est adulte. Et l'adulte en soi, c'est naturel. Naturel, pourquoi le Makeb Nogadol c'est assourd? Parce que naturellement, il y a un jour où le fils, il doit sortir de la tutelle de son père. Il doit avoir son moussard personnel. Il peut venir prendre conseil chez son père. Aujourd'hui, tellement le fils il est habitué à son indépendance d'esprit.
Très tôt, il est déjà
smelé. Donc très tôt, il dit, si tu te mêles de ma vie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu te mêles de ma vie? Donc le père il est obligé de venir en tant que copain, qu'il y a Rol, qui donne un conseil à son fils. Mais Shaglobit varim du ridva. Donc je viens pas contredire cette réalité. Mais ça va pas venir chaser Shalom par le fait que le père il a pas un message à apporter à son fils.
On va transcrire une idée qui vient de l'athéisme en fait.
Exactement. Mais.
Et donc, dans, là, ce qu'on veut nous dire, c'est que tu veux qu'on transcrive. Parce qu'il y a la théorie, mais tu dis qu'en pratique, sur une petite partie, essayer de transcrire ce qu'on devrait apprendre des athées.
On n'a pas le choix.
Ah non.
Pourquoi on n'a pas le choix? Pourquoi on n'a pas le choix? Si les juifs, il est convaincu.
C'est impossible, c'est inconcevable.
Tu veux, n'a pas le choix. Je ne vais pas dire à toi. Si quelqu'un il veut.
En France aussi, on n'a pas le choix. De ce fait que tu dises que tu es croyant.
T'es mal vu, t'es impossible.
Quel est l'homme qui est capable de dire moi je suis confiant à 100% du message que je veux transmettre?
Non, mais tout le monde ici. Confus, c'est le Mechalel Shabbat.
T'es cohérent à 100% avec ce que
non, non, c'est pas une raison.
Ça dépend quoi. S'il n'étudie pas 8 heures par jour, je te dis pas ça. Mais ton fils Shabbat, par exemple, je sais pas, il t'allait bien jouer il y a 8 ans.
C'est pas parce que sur une chose t'es confiant.
Là où t'es confiant, tu devrais pouvoir le faire. Là où t'es confiant.
Je pense que c'est pas ça. Là, tu es en train d'affaiblir la cohérence de la personne. Je pense pas qu'on doit être Rav Steinman qui a une cohérence totale pour pouvoir éduquer son fils. C'est pas la vision de la Torah.
Sinon
ça n'a pas de sens. Celui qui est incohérent, il a qu'à étudier pour devenir cohérent. Mais celui qui étudie comme rien ici, il essaie d'être cohérent.
En tout cas, là, on est sûr. Mais qui pour avec du jambon. Ouais,
seulement, il faut réaliser dans quel monde aussi le fils vit. Comment le fils il interprète. Si aujourd'hui c'est tellement mal vu, automatiquement, ça fait un rejet du fils. Je pense pas que le travail de l'homme.
Mais on alimente aussi ce truc-là en faisant ça. Et ça veut dire.
Il pourra toujours dire.
Alors il faut.
Non, alors que toi.
Oui, mais il y a une
perte de confiance.
Non, le problème, c'est qu'en faisant ça, on aide aussi ces gens-là. On aide ces gens-là.
Je vais raconter une histoire. Il était une fois un juif qui a reçu un rave chez lui à la maison. Et le rave, il voit le fils de cet homme-là. Qui va allumer la lumière à Shabbat. Un enfant de 10 ans, de 8 ans, pas un enfant de 3 ans, qui comprend rien, un enfant de 2 ans qui comprend. Un enfant de 10 ans qui va allumer la lumière. Il dit, c'est Shabbat. Il dit, moi, vous savez, je pense, les enfants et tout, il faut la manière douce, vous savez, il faut leur parler. Bon, très bien.
L'enfant de 8 ans qui a la brioche?
Non, le père. Très bien, bon, ok. T'as la manière douce, la brioche. Une heure plus tard, le fils, il est en train de jouer. Avec son petit jeu comme ça, il y a un vase min ping ping qui tombe, bang, il se casse. 100 000 euros qui est parti à la poubelle. Le père il le déchire, il a.
Le rabbi dit,
mon fils, il faut la douceur, on est en 2017, il faut la douceur. C'est en 2018, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le père il est en train de monter, le rabbi est en train de montrer au père qu'il est incohérent. Cette incohérence, on ne peut pas. Il faut être cohérent dans sa vie. Elle est flagrante. Mais elle est flagrante parce que j'ai présenté des choses comme ça. Mais le rabbin dit une journée aujourd'hui, entière chez ce monsieur.
Aujourd'hui, comme tu as dit, on ne peut pas être Rav Steinman sur l'éducation, etc. Voilà. Mais,
non, mais sur un truc.
Mais malgré tout, il faut essayer d'avoir une.
Un truc qu'on est cohérent.
Un truc qu'on est cohérent.
Il va manger pas caché. Il va manger pas ça avec halal. Il va manger du fromage avec du steak, par exemple. Est-ce qu'on va se comporter avec lui aujourd'hui de la même manière sur le site sur le balcon?
Si le fils, il est dans un matzav où déjà il mange sur Bassar Bechalav de Oraita, forcément, le coche, il est plus ou moins raté. Comment le fils il va réagir quand le père.
Mais
si tu exagères, faut peser tes mots. Pourquoi? Parce que quand tu dis ça, c'est-à-dire tu parles d'un fils.
Mais si je dis pas un truc grave, on dit que t'es pas cohérent.
Non, pas du tout. Ça sert à rien qu'il le frappe. À quoi sert le fils? Si le fils il s'en fiche de Bassar Bechalav, qu'est-ce que ça va intéresser le coup du père? Moi je parle pas de ça. Je parle d'un. On est cohérent. Mais cohérence, papa, c'est un homme que le fils il veut dire, le père, et tu dis non, mais le fils il fait une erreur, il frappe sa sœur. On parle pas d'un fils, celui qui est, il est atke d'écart, matrice, keneged aviv, qui mange bassar bechalav, ou qui allume la lumière Shabbat quand il a 15 ans.
C'est sûr, je crois d'ailleurs déjà.
Déjà, on parle d'autre chose, on parle d'un enfant qui a lâché l'éducation normale. Passons sur le côté religieux, même simple, sur le côté qu'il est chez ses parents, qui sont chambres mitzvot, il y a une lumière Shabbat. Donc on parle pas de ça. On parle d'un enfant de 10 ans qui frappe sa sœur. Chose de naturel, où si on est cohérent avec soi-même, on sait que c'est inacceptable. Enfin, dans certains cas, je veux pas donner un exemple. Si je donne l'exemple, après, on va. Je veux dire, quelque chose qui vient pas montrer que le fils, il a un décalage total. Pas un fils qui est bien calé dans sa famille, mais il y a quelque chose que le père, il sait que c'est inacceptable.
Tu comprends?
Dans ce cas-là, il faut le reprendre. La question, c'est comment reprendre? Khazal disent que quand un. Le problème. Ça c'est, donc jusqu'à maintenant, comme il nous reste quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et que Moshe il est pas content de ce que je dis. Non, alors je veux que Moshe il soit content, et je vais dire un message un peu différent.
Oula,
c'est. Alors, je rigole.
Sûr de
non, je rigole.
Moshe est très fidèle.
Ouais, je rigole. C'est pas grave, les blagues c'est parti. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant j'ai montré un aspect. J'ai montré un autre aspect, qui est une réalité qui fait mal, et donc on est obligé de prendre en compte.
Rav Yaakovson, c'est un grand éducateur, il dit, la réalité elle est, si tu vois un enfant qui vient et te dit un osher, un jeune qui est un peu lâché, qui te dit je supporte pas la tefila, tu sais que forcément le père c'est ce qu'il investit le plus pour que le fils y fasse bien. Quand un fils il te dit je supporte pas le limud Torah, je supporte pas la tefila, c'est que tu sais que le père il a essayé de le bourrer de tefila. C'est une réalité. Et donc Rakhazon il est arrivé à un stade, il a dit je crois que je vais conseiller à tous les pères de ne pas éduquer. Puisque ce qu'ils éduquent le plus, c'est là où ils échouent le plus, ça les éclate. Alors ça veut dire quoi? En réalité c'est une phrase erronée. Quand il bourre le crâne de son fils, c'est pas d'éducation. Et si le fils il réagit comme ça? Maintenant il faut pas oublier non plus le libre arbitre du fils. Aujourd'hui parfois on met tout sur le compte du père. Il y a le libre arbitre du fils. Mais en tout cas, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui sont presque anus, presque en cas de force majeure, par exemple, ils sont presque incapables psychologiquement de faire la tefila. Quand un père il vient chez son fils de 8 ans, Shabbat matin, non, Rosh Hashanah, 8h du matin jusqu'à 4h l'après-midi, et il le fait faire la tefila. C'est un tueur à gages. Le gage, c'est l'enfant. Non, comment il se permet de lui faire ça?
Bon, c'est une fois par an.
C'est une fois par an, c'est vrai.
Ça va? C'est Rosh Hashanah.
Non, toi, pour toi, c'est Rosh Hashanah.
Je te verrai assis à côté de ce gosse.
Non, pour toi, c'est Rosh Hashanah. Mais il faut réaliser dans quel monde l'enfant il vit.
Non, je suis d'accord, mais on est hors routine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
la
routine.
Voilà, dans la routine. Si le repas de Shabbat, par exemple, le gars, il aime que ça dure 2h30. Et il aime parler des choses très profondes. Ce qu'il a entendu au cours le mardi en psychologie et philosophie, il veut répéter à sa femme. C'est intéressant. Ça intéresse pas le petit. Si on lui raconte pas des histoires, on n'amène pas des petits moments, des trucs, ça intéresse pas. Si le père il est intelligent, il fait asseoir une demi-heure. Après, au bout d'une demi-heure, au bout d'un quart d'heure, le fils il se lève, il fait une petite remarque gentille. Il le reprend, ce qu'on parle Yasser Mincha. Au bout d'une demi-heure, quand le père il a su que le fils, au bout d'une demi-heure, il peut plus être à table, naturellement le fils il va partir, il va rien dire. Ça, c'est un enfant, un père intelligent. Mais si on est 1h30 après le début du repas, et le fils il se lève, et le père il donne une gifle, il n'a pas fait Yasser Mincha ve Yasserika. Il a aidé son fils, à part qu'il a torturé, il a aidé son fils à détester le repas de Shabbat. Au lieu que le fils, comme il a dépassé la dose, son père dans l'occasion. Mais le problème, c'est quoi? Le pire, c'est pas qu'il a détesté son père. Ça, c'est un problème. Toutes ces choses-là, Shabbat, ça peut être les Moutora, ça peut être Fila, ça peut être Midot, ça peut être le machin et quoi. Tous ces sujets-là, tu vas lui dire Moussa, il va avoir un haut-le-cœur. Tu vas lui dire mot de Fila, il va se sentir mal. Pourquoi? Parce que tu as réussi à associer chez lui la Tfila à un inou, il y a une souffrance. Donc il faut d'abord réaliser comment le fils il vit ça. C'est pas une question de shalom, d'athéisme, de quel est le droit du père et le droit du fils. C'est question de réalité. On est dans un dehors.
Ça, c'est, cet exemple-là, c'est exactement l'exemple qu'a donné, je ne me souviens plus, je prends un rave de Nebraska.
Pas français?
Non.
Pas français.
Rafus? Non, qui est spécialisé dans le
Kaufman. Kaufman. Moshe Kaufman.
Exactement, qui avait donné cet
exemple-là,
oui.
Alors?
Mais ça veut dire qu'on va prendre l'exemple dans ce que tu avais dit, comme dans le schéma que tu avais dit.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, un enfant restait 2 heures à table ou pas?
Alors, il faut expliquer.
Non,
ce que tu veux dire.
Est-ce que si un enfant, il y a 200 ans, ou 300 ans, on va dire, il restait 2 heures à table, alors le fait de le laisser qu'un quart d'heure, c'est de se dire, ben, je m'approche de l'athéisme.
Non.
N'importe quoi.
Ça, n'importe quoi. Si un enfant est 200 ans, pour moi, un enfant est 200 ans,
il n'avait pas de soeur. Il n'y avait pas de...
Mais regarde. J'entends ce que tu dis. Je vais expliquer ce qu'il dit. Toi, tu dis comme ça. Toutes les données qu'on avait il y a 3 siècles, ou au temps de la Gemara, si déjà. Au temps de la Gemara, au temps d'Avraham Avinu, toutes les données scientifiques, psychologiques, éducatives, de nature, etc., c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc si nous, on change notre comportement, on adapte notre comportement d'après ce qu'on croit être les capacités de l'enfant, on est un athée. Et moi, je suis cholek, parce que dans la réalité...
Un athée, je...
Non, on est proche de l'athéisme. Et moi, je suis cholek, par exemple, disons sur le côté physique, tout simplement. Tu vois dans tous les poskim, qu'au temps de la Gemara, un jeûne, c'était rien du tout. Autant du Shulchan Aruch, pour qu'une femme elle jeûne, ça va. Une femme enceinte, tous les rabbinim d'aujourd'hui, une femme enceinte, etc. Je parle pas de Kippour, il y a beaucoup de jeunes. Ah, les femmes d'aujourd'hui elles sont faibles. Comment ça se fait? Il y a une réalité qui fait qu'on est plus faible qu'autrefois. Maintenant, cette faiblesse elle est pas seulement physique, et même par rapport aux jeunes.
Il accepte pas même ça.
Bon, il accepte pas que la femme elle abuse.
Yardar Khulcha, elle a blâ.
Non, on a quand même. On
même physiologiquement, les femmes ont changé.
Voilà, physiologiquement. Maintenant, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui ont un rapport entre la physiologie et la psychologie. Par exemple, d'ailleurs, Gordon aussi explique ça. Quand une femme, là, nous, après un accouchement, elle fait un dikaon, ça veut dire une... Voilà, ça, c'est, on va te dire aujourd'hui, c'est physiologique. On va te montrer comment les hormones, etc. Mais c'est pas physiologique, c'est psychologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un... Parce que ça, ça existait aussi autrefois. Ce changement au niveau des hormones, il existait aussi autrefois. Mais quand mais il y avait moins. Pourquoi? Parce que quand...
On a fait un veto.
Ah, quelle heure il est déjà ici?
On fera pas ici.
Parce qu'on est que deux là.
Ah, mais on fera et demi alors.
On non, oui, mais est-ce qu'il y a
Mignan? Ouais,
il y aura Mignan, Bon. Voilà. En tout cas,
pathologique, sont deux,
je sais, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais quand. On, ça, c'est quelque chose que quand l'homme il est heureux, quand tu. Quelqu'un qui fait. On m'avait déjà expliqué, je crois, la dernière fois ça. Quelqu'un qui fait une course, il court comme un fou pendant des heures et il arrive à la fin, si c'est le premier de la course, où il monte sur le podium, il se sent bien. Et après, beaucoup plus rapidement, il se remet en forme. Mais si il a raté, ça lui prend plus de temps pour se remettre en forme.
C'est vrai ça?
Badaï, c'est pas dans tous les cas comme ça, mais c'est souvent comme ça. Donc c'est la même chose. Quand quelqu'un il sent qu'il a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, badaï qu'il y a un changement au niveau des hormones. Mais on peut réguler ça. Naturellement, le corps il peut réguler plus ou moins. Donc je veux pas traduire Shalom et Mekatrek, celui qui est une femme, c'est pathologique. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça, tout a un rapport, tout est lié. Mais en tout cas, quand les données elles ont changé, si par exemple, tous les enfants de sa classe. Ils ont un ordinateur. Toi, tu veux que ton fils n'ait pas d'ordinateur. Tu dis, il y a deux siècles, ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais il y a deux siècles, les voisins aussi, ils n'avaient pas d'ordinateur. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de lui donner cet ordinateur.
Alors
il faut réfléchir. Mais il faut réaliser la difficulté du fils. Tu ne peux pas ne pas réaliser l'enjeu d'aujourd'hui, en 2018, et fermer les yeux.
Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord.
Je sais que tu n'es pas d'accord.
Parce que là, tu es en train de transposer. Ouais. Non, tu es en train de vouloir faire passer l'idée sur une nouvelle technologie qui n'existait pas avant, sur le fait de l'appartenance de l'enfant à un cadre social.
Là-bas, explique-toi.
En deux mots, il y a 200 ans, tous les copains avaient des joyaux d'abricot pour jouer.
Ouais.
D'accord. Donc, c'est normal que mon fils ait aussi son joyaux d'abricot.
Ouais.
Aujourd'hui, la perspective a changé parce que. On avait aujourd'hui, le problème c'est que tous les enfants à côté ont un iPhone.
Ouais.
La question qu'il faut que je me pose, normalement, si c'était le même danger que le noyau d'abricot, j'aurais dû lui donner son iPhone parce que aujourd'hui le problème c'est que le danger de l'iPhone il est un peu plus grand que le noyau d'abricot.
Tu as raison, mais j'ai pas contredit
ça. Donc c'est là où la transposition n'est pas vraie parce que posséder un noyau d'abricot ça a un petit danger. C'est un iPhone, ça en a un autre.
On est d'accord les deux, mais on se contredit pas. On parle de deux choses différentes. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut. Non. C'est pas ça que je dis. Ça c'est une marque entre toi et lui.
Il dit qu'il faut réaliser.
Ce que je dis. Non, c'est qu'il faut réaliser cette vérité.
Que c'est aussi dur pour l'enfant.
Que c'est important. La Khevra, c'était aussi il y a deux siècles.
Faut que j'essaie de lui trouver son noyau d'abricot de l'époque.
Encore une fois, regarde, même si tous les voisins aujourd'hui c'est des cascadeurs qui foncent à 200 à l'heure, moi j'ai pas laissé mon fils être cascadeur qui fonce à 200 à l'heure. Pour la même raison, même si tous les voisins ils ont un iPhone, j'ai pas laissé mon fils un iPhone. C'est pas ça que je dis. Mais je dis, si je vois que mes enfants ils voient tous les voisins cascadeurs à 200 à l'heure, je vais me casser la tête, je vais réfléchir et je vais décider d'aller faire un tour de Jeep avec mon fils par exemple. Qui va lui donner cet argacha, sentiment de chirou qu'ils ont eux en cascadeur, mais je serai avec lui dans la Jeep. Ça va coûter ce que ça va coûter. D'ailleurs, mais tu me rends, ça va prendre le temps, mais il faut réaliser. Donc pareil, mais c'est pas une raison de le lâcher. C'est, on n'a pas dit qu'il faut le lâcher. On dit qu'il faut réaliser.
Il y a une autre réalité.
Oui.
La réalité de la télé aussi.
Ouais.
Toutes les maisons aujourd'hui, 99% des maisons, on a une télé. Même dans les maisons juives. Alors, le fait de ne pas avoir une télé pour un enfant. Ça peut être très compliqué.
Alors je vais expliquer. Alors j'ai expliqué. Alors pour ça il faut une cohérence. Ça veut dire que quand tu dis tous les, la question c'est qui fait partie de ta société. Personnellement, dans ma société il y a pas de télé, mais je peux choisir ma société. Il faut choisir une société qui va en cohérence avec la Torah. La société de libertinage, c'est pas une société qui est en cohérence avec la Torah. Donc il faut se choisir ça, dans la mesure du possible et graduellement.
Bonjour, cours, c'est Shalom Bayit.
Non, mais encore une fois, c'est pas. Maintenant, on va arrêter. Quelle heure il est? On dépasse le cadre. On dépasse le cadre de ce cours. Ce que je veux dire, tu poses des questions. M'a dit si tous les fils aujourd'hui, la majorité des jeunes, avant le mariage,
ils sont plus propres. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est la réalité des choses, donc il faut ouvrir son fils ou sa fille, malheureusement, à ce sujet-là ?
Non.
Non. Pourquoi ? Oui. Pourquoi pour toi, la télé, oui, et ça, non ? Sache que la majorité des gens...
D'accord, mais c'est très compliqué à expliquer à un enfant. C'est comme quand toute la classe, il veut, il a droit...
Ce qui veut dire, c'est pourquoi tu serais plus catégorique.
Non, voilà pourquoi la télé, tu es moins catégorique, tu me dis ça, et les choses... Je vais un peu plus loin. Ce que je te dis, c'est que c'est une suite logique. C'est... mœurs libres qui a aujourd'hui, c'est la porte ouverte à la suite.
Oui, mais dans les comportements qu'on adopte.
Pourquoi tu dis qu'aujourd'hui il faut se plier à la génération?
Voilà. J'ai pas dit qu'il faut se plier.
Alors
j'explique.
Tu as dit on fera plus, on fera plus parce que la psychologie a changé.
C'est ce que j'explique.
En me comportant comme ça, je demande c'est ce qui change aussi.
Alors je vous explique. Il faut réfléchir. Un instant. Je vous pose une question. Premièrement, est-ce que en soi, le tioul dipim, le tioul en dip, c'est négatif d'après toi, en soi?
Non. Oui, Bitoujman.
Bon, d'accord. Mais je parle, est-ce qu'il y a un danger, disons, spirituel réel? On ne peut pas, on peut jamais se plier à la société. Jamais, c'est un grand mot. Parce que parfois, c'est du garnet fèche pour l'enfant. Mais en général, on ne peut jamais se plier à la société si c'est contre la Torah. J'ai jamais dit ça. Si tout le monde mange du porc, alors tu vas accepter le porc. Ras v'shalom. Il faut être bête pour dire ça.
Donc,
vous êtes bête, mais il faut.
Donc, il y a pas d'interdit, je peux.
C'est pas une question d'interdiction. Tu peux trouver par rapport une émission qui est cachère, mais le fait d'avoir quelque chose qui aujourd'hui te laisse ouvert à tous les maux du monde, et la suite logique, c'est ce qu'on a dit tout il y a une minute, c'est il faut être un peu arriéré pour comprendre. Aujourd'hui, les gens intelligents, ils savent que c'est un danger réel, puisqu'on est confronté à toute la rue. Tous ces appareils-là, c'est pas un détail.
Les patrons de la Silicon Valley, des grands internets,
eux, ils font pas ça.
Ils ont des écoles
pour leurs enfants, ils ont pas ces choses.
Il y a pas d'iPhone, pas d'iPad, tout pas de crayon. Il y a pas de.
C'est connu. Donc c'est à dire que, mais c'est pas notre sujet. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis pas en train de dire que au nom de la société, il faut plier la Torah, Chazé Shalom. Il faut s'agenouiller à la société. Sinon, il faut réaliser la difficulté du fils. Et il faut essayer. S'il y a des choses qui sont totalement incohérentes avec la Torah, il faut choisir une autre société. Quand dans ta société, on peut pas être Shomer Shabbat, impossible. T'as le droit d'être Mechalel Shabbat? Non, tu dois changer de société. Société de boîte. Pareil, société, Chevra. Si c'est une société pourrie jusqu'à la moelle des os, faut choisir.
Mais là, c'est bizarre parce que si je frappe pas mon fils, je suis sonné de bien. Si aujourd'hui, il y a plus de société.
Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que pour l'instant, il vit dans une société où le coup, c'est pas le reprendre, mais le martyriser. Donc ça c'est une réalité.
Donc il faut être mécaillé, c'est un truc que je peux être mécaillé.
Non, il faut être mécaillé en finesse. Il faut par exemple lui faire une petite part comme ça. Par exemple, si tu réalises que ce que la Gemara veut te dire, le passage qui veut te dire, c'est le fait de cadrer ton fils. Ce besoin de cadrer aujourd'hui, il n'est pas moins important qu'autrefois. Et si tu le fais bien, ton fils il va comprendre lui-même que quand le père, l'autre père, il laisse son fils en libertinage, c'est pas parce qu'il l'aime. Tu peux l'expliquer par des demi-mots ça, sans parler de l'autre. Tu peux l'expliquer que quand tu le reprends à l'ordre, c'est parce que tu l'aimes. Tu peux l'expliquer que ça te prend du temps. Quand tu es au travail,
même résultat,
t'as un exemple. Si tu es fatigué, tu arrives du travail à 9h du soir, ta femme en 2 minutes elle te raconte quand t'es affamé, tu donnes une tannée à ton fils, c'est pas Yasermin Khayasreka, c'est parce que tu veux manger, c'est l'inverse de ce qu'il m'allume. Si tu rentres au milieu du travail, tu perds un client pour écouter, bien sûr, tu perds un client, un contrat, pour réfléchir avec ta femme lentement, après tu vas te promener dans les bois avec ton fils, tu discutes avec lui du sujet, tu fais ce qu'il dit le Malbim. Tu montres à ton fils que tu l'aimes, c'est plus important pour toi, ton fils, que le contrat. Même si tu dis que le contrat, c'est pour pouvoir après lui acheter encore un iPad pour qu'il soit plus dans la société, non. Prends le temps, tu comprends? C'est une réalité. Donc on peut pas choisir. Ce que je veux dire, c'est que dans ces sujets-là, on peut pas choisir un pasouk et laisser tous les autres de l'autre côté. Un Mahamar Chazal, laisser tous les autres. C'est pas logique. Il faut une cohérence. Il faut pas, Chazal, plier la Torah, mais il faut en même temps réaliser qu'on vit dans une société différente. Dans des capacités mentales, physiques, psychologiques différentes d'autrefois. Et prendre ça en compte. Après, voir ce qui est interdit, c'est interdit.
Mais les menaces, c'est pour un enfant qui est moins que Gadol, d'après tout le monde, à 27 ans, 6 ans, genre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les professionnels, les c'est complètement interdit de frapper des femmes? Non. On doit frapper des fois un petit peu?
Dans certains cas, oui. Mais pas un coup cruel. Il y a beaucoup d'éducateurs qui disent de ne jamais frapper aujourd'hui. Eux, ils disent, on dit que Rav Eliyahu Lopian, Rav Volbe, il rapporte que Rav Eliyahu Lopian, il disait qu'il frappait presque jamais ses enfants. C'était il y a un siècle. Et chaque coup qu'il a frappé, il regrette. Malgré que ses enfants soient sortis des grands amis. Comme ça, Rav Volbe, il rapporte. Ça, c'est l'approche de Rav Volbe. C'est pas évident. D'après la halakha, si vous voyez les tchouvot de Rav Osner, le livre de la Kudosa du fils de Rav Adja Youssef, c'est pas évident. C'est pas évident qu'en soi, le coup,
Au contraire, si c'est une mitzvah. Mais il faut réaliser que comme on vit dans une génération totalement différente, donc ça a une connotation totalement différente. Si au temps de la Gemara ça avait une connotation de meurtre, ce serait interdit. Si ça a une connotation négative qui provoque chez l'enfant la rébellion, c'est interdit par la Gemara Moed Katan Shranaour. Donc la réalité d'aujourd'hui, te disent les éducateurs, c'est que comme on est en déperdition de valeurs, etc., 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 c'est beaucoup plus délicat. C'est délicat, donc il faut prendre les choses avec beaucoup plus de finesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer la partie Yasser Bincha et Yasserika. On peut parfois la remplacer par d'autres moyens.
Mais ce qui veut dire.
Et là, on a terminé le cours.
Est-ce que tu veux dire quelque chose?
Je suis sûr que parmi ici, même ailleurs, il y en a beaucoup qui, étant petits, se faisaient frapper par la porte. Ouais. Très bien sorti, on n'est pas traumatisé. Donc pourquoi aujourd'hui on a cette idée de dire ah, faut pas frapper.
Alors c'est une autre remarque, c'est pour ça que
les spécialistes disent faut pas frapper. Au contraire, moi je suis sûr que si on prend la moyenne, ceux qui se sont fait frapper, c'est ceux qui sont le mieux sortis.
C'est très bonne remarque. C'est une minorité qui sort.
On a des exemples.